Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, 18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on a la confirmation alors que ce marché-là résiste quasiment à tout. Le marché de l'emploi des cadres a encore battu des records l'an dernier en France et devrait être encore très très soutenu cette année. On va voir ça bien sûr dans un instant. Sinon, le gouvernement lui est toujours en mode chasse aux milliards. On en parlera dans 10 minutes. Tenez, avec l'homme qui a fait le buzz il y a une dizaine de jours, c'est le sénateur Jean-François Husson qui a fait une petite descente surprise du côté de Bercy. Il sera avec nous sur ce plateau. Gabriel Attal, lui, pendant ce temps, donne des gages à sa majorité, à l'aile gauche notamment. Il leur demande de faire des propositions pour taxer les rentes. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Et puis on dira un mot ce soir de ce rapport très attendu qui vient de sortir. Comment maintenir l'assurabilité du territoire français face à la montée inexorable des incidents climatiques? Il va falloir responsabiliser tout le monde, État, collectivités, entreprises et particuliers. On verra ça bien sûr dans un instant. Voilà le programme non exhaustif bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc, je vous le disais, il y a quand même des fondamentaux auxquels on peut se raccrocher et parfois ça fait du bien. Bonsoir Raphaël Couder. La bonne nouvelle du jour, donc, c'est l'APEC qui le dit. On va continuer à recruter des cadres cette année. Moins que l'an dernier, mais on va quand même en recruter encore beaucoup en 2024, Raphaël.
Absolument. Les entreprises vont recruter cette année environ 337 000 cadres selon les projections de l'APEC. Ça correspond à une hausse d'environ 2% par rapport à l'année dernière. En 2023, c'était 7% d'embauches supplémentaires. Donc, effectivement, on le voit, l'intensité des recrutements ralentit, mais globalement, ce marché de l'emploi des cadres continue tout de même de croître légèrement. Dans le détail, c'est très contrasté selon les différents secteurs d'activité. Les services à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire l'ingénierie, l'informatique, la R&D sont toujours très bien orientés. Bonne surprise également, l'industrie va poursuivre ses recrutements. En face, en revanche, la construction et l'immobilier s'enfoncent dans la crise. Il y aura moins de recrutement de cadres dans ces secteurs cette année. Au niveau géographique, la dynamique continue d'être portée par les traditionnelles places fortes de l'emploi cadre. L'Île-de-France, par exemple, devrait représenter cette année près d'une embauche de cadres sur deux. Contraction des embauches attendues en revanche en Nouvelle-Aquitaine ou dans les Hauts-de-France. De légers reculs qui sont toutefois à relativiser, nous dit l'APEC, car les niveaux de recrutement resteront cette année proches des records atteints en 2023.
Marché des cadres assume. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis donc, le directeur général de l'APEC, Gilles Gâteau, qui sera l'invité de BFM Business, ce sera demain matin en direct à 8h15. Pendant ce temps, je vous le disais, le gouvernement continue à lancer des pistes pour trouver quelques milliards de plus. Et là, bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Là, on est sur un terrain sensible. Il a demandé à ses députés de lui faire des propositions pour taxer les rentes. Et il veut un retour d'ici le mois de juin sur ce sujet, Thomas.
Exactement, Guillaume. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Le Premier ministre veut recadrer le débat parce qu'il voit bien que sa majorité part un peu dans tous les sens sur ces questions de hausse d'impôts. D'un côté, vous avez l'aile gauche de la majorité qui pousse pour des hausses d'impôts ciblées. Des élus influents de la majorité, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, le président de la commission des lois, Sacha Houlier, ou encore le président du groupe Modem à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei, veulent que les entreprises contribuent davantage à l'effort de rétablissement des comptes publics. En face, vous avez l'aile droite de la majorité des poids lourds, comme le rapporteur du budget à l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, le whip de la majorité à la commission des finances, Mathieu Lefèvre, qui ne veulent pas de ces hausses d'impôts ciblées. Et puis au milieu, vous avez le Premier ministre qui essaie de trouver la ligne de crête. Il avait réaffirmé la semaine dernière aux 20h de TF1 son opposition à des hausses d'impôts sur les ménages et les entreprises, mais il avait dit aussi, je le cite, qu'il n'avait jamais eu de dogme sur le sujet des super-profits. Il avait rappelé que les énergéticiens pharmaciens et les laboratoires de biologie médicale avaient eu droit à une taxe spécifique. Et on saura donc au mois de juin, au plus tard, à l'issue de cette mission, si de nouveaux secteurs ou entreprises seront concernés pour le budget 2025.
Mais François Hollande avait ses frondeurs, donc pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas les siens finalement? Voilà, c'était un vaste...
On n'est pas là, mais ça commence un peu à ressembler.
Ça commence un petit peu à s'agiter au sein de la majorité. Ouais. Cet os rongé qui a été donné aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Et puis alors, vous savez qu'au milieu de tout ça, dans trois semaines, le 26 avril, les agences de notation Fitch et Moody's sont susceptibles de dégrader la note de la France. Beaucoup le voient venir gros comme une maison, sauf que Fitch a clairement laissé entendre tout à l'heure qu'en fait, elle pourrait ne toucher à rien. Toute nouvelle décision négative est conditionnée à une nouvelle hausse importante de l'endettement que nous jugeons improbable. Voilà ce qu'a dit Fitch très exactement dans un communiqué qui est sorti à la mi-journée. Mais donc, on aura le fin mot de l'histoire, évidemment, le 26 avril prochain, donc dans un peu plus de trois semaines. Dans l'actualité, on voulait vous parler de ce rapport qui est sorti aujourd'hui, le rapport Langrenet sur l'assurabilité des risques climatiques en France. Il a été repoussé à plusieurs reprises. Bonsoir Alexandra Paget.
Bonsoir.
Document de 116 pages qui propose de nombreuses pistes qui sont parfois... disons-le clairement, assez radical, Alexandra.
Oui, alors d'abord, il faut déjà dire que ce rapport était très attendu. Il était prêt depuis le 22 décembre. Il faut dire qu'il y a urgence, Guillaume, au regard des nouvelles intempéries et inondations qui ont touché plusieurs régions de France ce week-end. Alors, ces catastrophes naturelles à répétition ont un coût exponentielle, c'est bien tout le sujet. 6,5 milliards l'année dernière. Le gouvernement prévoit 70 milliards d'euros d'indemnisation additionnelle dans les trois prochaines décennies. Et ça fait peser le spectre d'un retrait des assureurs des régions les plus vulnérables. Alors, pour éviter ça, la première piste de Thierry Langrenet, que vous allez recevoir tout à l'heure, c'est la prime CatNat, catastrophe naturelle. Des particuliers et des entreprises, ils voudraient l'augmenter chaque année. Les auteurs du rapport préconisent une hausse de 12 à 20% en 2025 de l'assurance habitation, soit une augmentation annuelle de 16 euros par foyer, de quoi dégager 1,2 milliard d'euros. Deuxième proposition, pénaliser les propriétaires de résidences secondaires et locatives. C'est-à-dire que s'ils ne font pas le nécessaire pour protéger leurs biens, les assureurs pourront augmenter les primes et la franchise de l'assurance habitation un peu comme ils le veulent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Troisième idée, obliger les propriétaires à engager des travaux de prévention pour éviter les dommages à répétition. Les habitants des zones classées rouges, c'est-à-dire à risque élevé de catastrophes naturelles, seraient tenus de faire des travaux dans les trois ans après un premier sinistre. À défaut, il subirait un triplement de la franchise pour les sinistres suivants de même origine.
Voilà quelques-unes des pistes préconisées par ce rapport. Thierry Langrenet, qui effectivement sera notre invité tout à l'heure à 18h25 sur BFM Business. Merci beaucoup Alexandra. Dans l'actualité des entreprises, on voulait dire un mot quand même de ce très gros contrat remporté aujourd'hui par Naval Group. Bonsoir Jean-Baptiste Huette.
Bonsoir Guillaume.
Naval Group va vendre à l'Indonésie deux sous-marins de type Scorpène, et ils seront construits sur place grâce à un transfert de technologie, c'est ça Jean-Baptiste hein.
Naval Group attendait depuis 2022 assez fébrilement quand même la conclusion de cette opération, c'est donc fait. La marine indonésienne acquiert deux sous-marins Scorpène à propulsion diesel électrique, c'est un contrat qui avoisine selon certaines sources de presse les 2 milliards d'euros. Particularité de cette commande, c'est outre ces moteurs diesel, les deux sous-marins seront équipés de batteries lithium-ion. C'est une petite révolution technologique parce que ces batteries lithium-ion viennent remplacer les anciennes batteries qui étaient utilisées dans les sous-marins, qui étaient des batteries acide-plomb, qui étaient assez dangereuses, qui étaient vieillissantes. Donc, une capacité énergétique supplémentaire pour ces appareils, ces bâtiments, qui va leur permettre d'être beaucoup plus discrets, d'avoir une autonomie supérieure. Les sous-marins, donc, comme vous l'avez dit, Guillaume, seront construits en Indonésie par les chantiers indonésiens PAL. C'est un pur transfert de technologie. C'est exactement ce qui se fait depuis quelques années avec le Brésil ou avec l'Inde, avec lesquels travaille déjà Naval Group. Donc, belle opération pour Naval Group, qui, d'abord, continue de placer des pions militaires, si j'ose dire, dans cette zone indo-pacifique qui est particulièrement stratégique. En plus, les dépenses militaires dans cette zone sont extrêmement importantes. Et puis, c'est une bonne nouvelle industrielle pour le modèle Scorpène, la classe de sous-marin Scorpène, qui s'est déjà vendue au Chili, en Malaisie, au Brésil, en Inde et donc maintenant en Indonésie.
Et donc, en Indonésie, il y en a deux contrats évalués aux alentours de 2 milliards
exactement.
À peu près. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu es avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, Étienne Braque, bonsoir. Au Next à la Défense pour BFM Business. On a recommencé à travailler à la Bourse de Paris ce mardi. Et on est reparti dans le rouge ce soir, Étienne.
Et oui, figurez-vous que c'est même la plus forte baisse depuis mi-janvier pour l'indice parisien, alors que la baisse n'est que de 0,9%. Ça montre quand même l'ampleur du rallye de ces dernières semaines. Après des records, l'indice revient à 8130 points ce soir au fixing, le tout avec du volume, plus de 4 milliards d'euros échangés. Il faut dire que vous avez un cocktail de mauvaises nouvelles depuis quelques heures, de nouvelles tensions au Moyen-Orient, mais aussi entre l'Ukraine et la Russie. Ajoutez à cela des éléments macroéconomiques très solides aux États-Unis. Donc la baisse des taux au mois de juin, là, tout d'un coup, l'idée est beaucoup moins claire. Et donc, par rapport à cela, vous avez l'obligataire qui remonte à 4,36% pour le 10 ans américain sur des plus hauts de 4 mois. Et puis donc, le pétrole qui revient sur des plus hauts de 5 mois à 88 $. Ça porte Total Energy plus 4% ce soir à la clôture. Figurez-vous que la valeur est même sur un record historique à la porte des 66 €. Mais ça n'empêche pas le CAC 40 de progresser, loin de là. Moins 0,9% pour l'indice à 8130 points au fixing.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, le Dow Jones qui dégringole d'1,2%, 39 073 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui se replie aussi sévèrement, moins 1,35%, 16 175 points. Tout ça à la mi-séance. 18h09, c'est l'homme qui a fait le buzz il y a 10 jours en faisant une descente surprise du côté de Bercy. Le sénateur Jean-François Husson est avec nous dans la grande interview sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h13 sur BFM Business, et donc le sénateur Jean-François Husson qui est avec nous. Bonsoir monsieur le sénateur. Merci Bonsoir. Beaucoup, rapporteur général de la commission des finances du Sénat. Sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, c'est vous qui avez fait le buzz il y a 10 jours. Vous avez grillé la politesse à l'INSEE en allant, c'était le 21 mars, faire une descente surprise du côté de Bercy pour recueillir des documents confidentiels sur l'état de nos finances publiques. Pourquoi vous y êtes allé, monsieur Husson? L'INSEE allait sortir ça 5 jours plus tard. C'était pour faire de la gesticulation? C'était quoi l'idée?
Ah non, non, le sujet est trop sérieux et la situation est trop grave. Pourquoi j'ai pris cette initiative? Parce que le gouvernement, lors de l'examen du budget au Sénat, où nous avons examiné le budget en proposant, excusez-moi de le rappeler, 7 milliards d'économies voté par la majorité sénatoriale. Le gouvernement n'en a rien retenu. Il avait ses prévisions de croissance, de déficit, qu'il a tenu jusqu'au 20 mars, où une fuite nous dit qu'au lieu d'avoir un peu moins de 5% de déficit public, on allait passer à 5,6%.
Oui.
Si vous voulez, j'ai trouvé que c'était méprisant pour la représentation nationale et le travail du Sénat. Donc j'ai un tout petit peu réfléchi, mais pas longtemps. Il y avait deux possibilités. Une commission d'enquête, il faut du temps. Un contrôle sur pièce et sur place. Donc, dans la demi-journée qui a suivi, effectivement, je me suis rendu à Bercy pour rencontrer les services parce que j'ai souhaité savoir de quelle manière le gouvernement et quand il était informé.
Mais vous avez eu des mots très durs à ce moment-là et ensuite à l'encontre de Bruno Le Maire. Vous dites clairement, vous l'accusez de cacher l'état réel des comptes pour 2024. Entre parenthèses, si rien n'est fait en l'état actuel des choses, nos déficits, ils sont à combien à la fin de cette année 2024? Donc 5,5 à la fin de l'année 2023.
Alors,
2024, on irait où
la
série?
À l'année 2024, il peut être à 5,6, 5,7.
Ouais, ouais.
Et en 2025, à 5,9. Ça, ce sont des notes sous réserve.
Si rien n'est fait, hein.
Voilà, tout à oui. fait. Voilà, c'est des notes. Donc, effectivement, c'est des notes que le gouvernement a gardées par-devers lui.
Oui.
C'est son droit. Il retient l'information.
Oui, oui.
Il a le droit. Mais il a surtout le droit d'agir. Et quand je dis le droit, il a un devoir d'agir. Et il a fait ni l'un ni l'autre. Et donc, à force de laisser filer, si vous voulez, la dépense, la dette, aujourd'hui, j'ai posé la question jeudi, puisque je me suis invité à Bercy
oui.
le 21. J'ai répondu à l'invitation des ministres la semaine suivante,
oui.
donc jeudi
oui.
dernier.
Oui.
J'ai posé à nouveau la question en disant quel est aujourd'hui l'état prévisionnel du déficit? Quel est le montant de l'effort que nous avons à faire? Eh bien, parce que on va se dire les choses. Aujourd'hui, on a eu 10 milliards de coupes
oui.
budgétaires. Là, décidé sans aucune concertation, mais enfin, 10 milliards. Le ministre nous a dit, le ministre des Finances nous a dit, il en reste encore, ça ne va pas suffire. Donc j'ai reposé la question, et il n'y a pas que moi, en disant, mais quel est le montant complémentaire? Parce que
pour cette année, hein, pour cette
oui,
année.
Pour 2024.
Oui, oui, oui.
Parce que pour boucher un trou pour cette année, les mesures sont différentes, et on ne met pas tout à fait les mêmes matériaux dans un trou à boucher, si c'est un petit trou, ou si c'est quelque chose d'énorme. Là, aujourd'hui, c'est la face nord et on est à plus de 3000 mètres, puisqu'on a plus de 3000 milliards de dettes. Donc, je pense que l'heure est grave et il est temps que le gouvernement pose les choses. De toute façon, il va devoir le faire.
Oui.
Puisque nous avons une échéance là, ce mois-ci, par rapport au programme de stabilité européen. Oui. Donc, c'est bien l'Europe, mais il faut aussi... je dirais, être au rendez-vous, et notamment des comptes
alors,
bien tenus.
Qu'est-ce que proposent les Républicains sur le sujet pour aller chercher? Alors, on le sait, combien de milliards déjà pour ramener nos déficits au niveau prévu, 4,4% à la fin de cette année? Est-ce que l'objectif vous paraît tenable? Et non. Si oui, à quel prix? Non, vous dites non.
On va voir qu'il n'est pas tenable. On ne peut pas revenir d'un coup de baguette magique de 5,5 à 4,4, sachant que nous
sommes... Donc 2023, on n'a pas tenu les objectifs, vous dites 2024, on ne les tiendra pas. C'est pas la peine de s'exprimer.
Mais vous allez voir que le gouvernement va... les corriger. Il va évidemment être tenté de minimiser, mais je pense que nous arrivons à un moment de vérité. Je pense que la situation est grave. Je le dis, sous la Ve République, hors temps de crise, c'est la plus grave crise des finances publiques. Donc on n'est pas là pour plaisanter, je dirais même, on n'est pas là pour faire des petits calculs politiques. Chaque mois passé à ne pas remédier à la situation est un mois perdu. Il est perdu doublement. Il est perdu parce que, évidemment, le trou, la dette abyssale se creuse, la dette augmente, mais aussi parce que, dans le même temps, ce sont les générations actives d'aujourd'hui et de demain. Alors, quand on a aujourd'hui une préoccupation qui est d'avoir des comptes bien tenus, ça n'est pas le cas. Qu'on a une dette écologique et environnementale, climatique, qui n'est pas mince, ne dépend pas que de la France... La responsabilité est double et moi j'invite le gouvernement à faire face à cette double responsabilité. Le Sénat a toujours su prendre sa responsabilité dans le domaine.
Que dit le Sénat? Et au-delà de ça, que disent les Républicains sur la nécessité d'aller chercher ces milliards? Est-ce que vous achetez par exemple le CNAE de la Cour des comptes qui dit qu'il faut 50 milliards d'ici 2027 pour ramener nos déficits sous la fameuse barre des 3% du produit intérieur brut? Un, est-ce que vous achetez ce scénario? Deux, où doit-on aller chercher les milliards au plus vite pour atteindre ces objectifs?
Alors,
qu'est-ce que disent les Républicains là-dessus, monsieur?
La question d'acheter ou de ne pas acheter. Moi, je pense, effectivement, je l'ai dit, j'ai sorti un chiffre. D'ici en 2025, si on ne touche rien et si on croit certaines des prévisions faites actuellement par les services de Bercy, en 2025, il faut 65 milliards. C'est les chiffres du ministère, vous verrez. Je les ai, voilà, ils sont noir sur blanc dans des notes.
Les chiffres qui sont cachés, vous nous dites ça ce soir. Ce sont les chiffres cachés aujourd'hui.
C'est des chiffres qui sont dans des notes.
65 milliards, vous dites?
En 2025.
Oui.
Oui, c'est dans une note de Bercy. Et vous, ne vous inquiétez pas, nous allons faire un travail. Ce chiffre, je l'ai déjà donné puisque je l'ai vu. Et je l'ai donné devant le ministre, jeudi à nouveau. Je n'ai pas eu de réponse.
Je voudrais être sûr de bien comprendre. Vous nous dites qu'il faut trouver 65 milliards pour être sûr de ramener nos déficits au niveau qui ont été annoncés fin 2025.
Voilà, c'est ça.
Ils sont à combien? Quel pourcentage du PIB en fin 2025, vous dites?
Fin 2025, le risque aujourd'hui, c'est 5,9 de déficit.
Ouais.
C'est sans aucune mesure.
Et l'objectif initial, il est de?
Il était de 3,7.
Ah, donc pour aller passer...
Il y a 2,2 points.
Voilà, donc pour aller à 3,7, il faut 65 milliards d'euros, c'est ça que vous nous dites.
Fait.
Et quand est-ce que le gouvernement va sortir du bois sur ce sujet, alors? Vous le savez,
écoutez, je pense qu'il va y aller à pas mesurer, parce que au regard du handicap dans lequel la France se trouve, enfin, il faut quand même juste rappeler qu'on est, en termes de fiscalité, le pays en Europe qui a la fiscalité la plus élevée, impôts et taxes. En termes de dette, on est les troisièmes. Et en termes de dépenses publiques dans les pays développés, nous sommes les premiers. C'est des indicateurs préoccupants. Quand vous y ajoutez l'état du commerce extérieur avec un déficit de plus de 100 milliards d'euros, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même du travail à fournir. Heureusement, il y a quelques sujets sur lesquels les résultats sont plus intéressants, j'en conviens, sur l'emploi. Mais aujourd'hui, il faut être... plus productif et il faut créer plus de richesses.
Bon, d'où la question que je vous posais en une grosse minute. Malheureusement, on est quasiment au bout, mais une grosse minute. Où va aller chercher rapidement ces gisements d'économie, monsieur Husson? Voilà. Qu'est-ce que disent les Républicains là-dessus? Ils ne sont pas toujours au diapason sur ces sujets. Hein,
mais est-ce que le gouvernement est au diapason?
Moi, je n'ai pas dit ça.
Mais non, mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Première annonce.
Non, mais vous.
Mais le ministre en charge des comptes publics, qui est quand même en responsabilité aujourd'hui, il dit qu'il faut désindexer les retraites de l'inflation. Le président de la République a dit « Non, mais vous n'y pensez pas, monsieur le ministre, circulez, rien à voir. On nous a fait le coup du logement, on nous fait le coup de la priorité de la santé, on nous fait le coup des agriculteurs au-dessus de la pile. »
Et vous nous faites le coup de quoi, alors, républicains, alors, pour vous, les
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut, en fonction de la gravité et du montant du déficit, il faut poser les chiffres. Il faut regarder quels efforts doivent être consentis. Et il y a deux sujets, au moins. Il y a un sujet de ce qui peut être entrepris de manière immédiate, rapide, mais souvent c'est un peu des fusils à coups, et il y a les dépenses, ce qui peut être fait de manière structurelle, c'est-à-dire comment on réduit la dépense publique. Réduire la dépense publique, c'est pas un gros mot.
À échéance rapide déjà, monsieur Husson, qu'est-ce qu'on fait là dans les prochaines semaines, les prochains mois?
Il faut poser ce diagnostic et le gouvernement.
J'attends des choses un petit peu concrètes de votre part.
C'est trop tôt pour dire nous des.
Non, le sujet date pas d'hier. Vous n'allez pas me dire vous découvrez le sujet aujourd'hui.
Pas le sujet aujourd'hui. Mais pour prendre les mesures, je le redis, elles ne sont pas de la même ampleur. Nous avons proposé des mesures sur l'emploi, sur la formation professionnelle, sur l'éducation nationale, par exemple, pour réduire de 700 millions d'euros, rien que sur une année, les crédits qui aujourd'hui ne sont pas consommés pour la formation des enseignants parce que ça ne rentre pas dans le temps possible. Et des chiffres comme ceux-là, on en a un certain nombre. Et puis, je vais quand même vous dire une dernière chose. Aujourd'hui, et je l'ai dit également au ministre jeudi, le gouvernement a déporté 16 millions d'euros de crédits qui n'avaient pas été consommés en 2023 et les a remis dans le budget 2024. Alors
16 millions, monsieur.
16 milliards, pardon. 16
milliards, je peux poser la question. 16 milliards. OK.
Ce qui veut dire qu'au final, nous avons voté un budget avec les données qui sont, moins 10 milliards de coûts, plus 16 milliards de crédits reportés. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, le budget est plus élevé de 6 milliards que celui qui a été voté. Comprenez qu'il y a de la dissonance. J'attends aussi, comme je l'ai demandé au ministre de l'Économie et des Finances, des réponses claires sur le sujet. Nous ne pouvons pas tricher. C'est le moment de la vérité et c'est le moment du travail collectif. Pour ça, il faut des bases solides.
Je comprends donc à vous entendre, ce sera le mot de la fin, que toute la vérité n'a pas été dite sur l'ampleur des déficits.
Absolument.
Aujourd'hui,
ça aurait été.
Vous nous dites, il y a encore des chiffres qui vont tomber là, qui sont cachés.
Mais
vous les avez publiés, vous les avez placardisés.
Non, les connais.
Vous les connaissez.
Voilà, puisque c'est le contrôle sur pièce et sur place.
Bon.
Mais puisqu'on va avoir nous une mission flash de la commission des finances pour essayer de comprendre depuis quand le gouvernement, comment il travaille, comment les services alimentent le gouvernement pour l'aider dans la prise de décision. C'est tout ça qu'on doit bien comprendre pour savoir si effectivement il y a eu un retard à l'allumage, pas de chance, ou bien alors si le gouvernement a mal agi.
Merci beaucoup Jean-François Husson. Merci d'être venu voir le sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, le rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat. Merci monsieur le sénateur d'être passé ce soir sur BFM Business. Comment faire en sorte que la France reste assurable face à la multiplication des risques climatiques? Gros sujet, il y a un rapport rendu au gouvernement là-dessus aujourd'hui, on en parle dans 30 secondes, à tout de suite.
Good evening business, actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h25, alors c'est un sujet qui revient en force au moment où la France avait confronté à une nouvelle vague de crues et d'inondations. C'est un rapport qui a été remis aujourd'hui au gouvernement, rapport sur l'assurabilité des risques climatiques en France. On va en parler au téléphone avec Thierry Langrenet qui est avec nous. Bonsoir monsieur Langrenet, merci d'être avec nous quelques instants. Bonsoir, vous êtes président de l'association environnementale Atelier du Futur et vous êtes l'un des auteurs de ce rapport qui a été rendu aujourd'hui au gouvernement. En quelques secondes déjà, pour que ce soit bien clair, le thème c'est comment faire en sorte que les assureurs continuent soient en mesure de continuer à assurer particuliers, entreprises contre les risques climatiques. C'est ça l'idée, hein, monsieur Langrenet.
Oui, tout à fait. Et en codicille, comment est-ce que les assureurs peuvent également porter à l'étranger des politiques d'atténuation, de décarbonation des activités humaines, de manière à ce que ces événements soient moins nombreux dans le futur.
Oui. Avant de parler un peu des quelques propositions, on a 3-4 minutes pour ça. Rappelez ce chiffre que vous donnez, vous dites parce que les événements climatiques sont plus fréquents, sont plus intenses, on est potentiellement sur une facture de 70 milliards d'euros sur les 30 prochaines années. C'est ça, monsieur Langrenet, aujourd'hui?
Aujourd'hui, on sait que nous sommes dans une situation de déséquilibre. Les régimes d'assurance des événements climatiques sont multiples, d'abord en France. Il faut compter l'assurance récolte, l'assurance des particuliers et des entreprises qui elles-mêmes se subdivisent en deux régimes, le régime tempête pour simplifier et le régime des catastrophes naturelles. Donc comme l'indique le GIEC, nous allons au-devant d'une intensification à la fois en fréquence et à la fois en sévérité des événements naturels qui mettent à mal ces différents régimes.
Et ce que vous dites, c'est préserver notre régime de catastrophe naturelle, parce que c'est ça l'enjeu. Vous dites en gros, ça va être l'affaire de tous, de l'État, des collectivités locales, des particuliers, des entreprises. Tout le monde va être amené à faire des efforts et à se responsabiliser. C'est ça l'idée fondamentalement. Hein.
Exactement. Il faut bien avoir conscience que ce régime des catastrophes naturelles, c'est une pépite. C'est un grand privilège parce qu'il organise une solidarité nationale qui permet à tous, particuliers et entreprises, d'être assuré quel que soit le niveau d'exposition de la zone où l'on se situe.
Et il est déficitaire depuis 2015, ce régime, le régime CatNat, comme on l'appelle, hein, de catastrophe naturelle.
Tout à fait, ouais. Parce que la prime correspondante à ce régime est restée stable, les franchises sont restées stables, et pendant ce temps-là, les événements naturels se sont multipliés, ouais, et ont gagné en intensité, spécialement en 2022, comme on le sait.
Si je vous demandais, Monsieur Lantray, pardon, on est un peu pris par le temps, en une grosse minute, de nous donner deux, trois des grosses propositions que vous préconisez justement pour préserver ce régime d'indemnisation des catastrophes naturelles.
Alors, d'abord, vis-à-vis des assurés, des particuliers et des entreprises, l'effort à court terme à réaliser, c'est celui du rééquilibrage des primes. La décision a été prise fin décembre, elle prendra effet en 2025, mais il faut savoir que le changement climatique, il sera durable, et que donc l'inflation des sinistres exigera un relèvement périodique des primes à hauteur, on a considéré, de l'ordre de 1% par an pour les décennies à venir. Ça, c'est du côté des primes d'assurance. Oui. Du côté des assureurs, nous considérons qu'il est important qu'une fois le régime rééquilibré, ils assument leur responsabilité sociétale et que donc ils restent présents dans toutes les zones, même les plus exposées, parce qu'ils ont l'aubaine d'une assurance obligatoire à un prix imposé par l'État sur les zones les plus préservées. Donc les assureurs doivent réaliser une permanence de l'offre d'assurance sur toutes ces zones. Et puis, très important, comme vous l'avez dit, la prévention est aujourd'hui un parent pauvre, oui, du régime, parce que le régime d'assurance catastrophe naturelle, en fait, déresponsabilise. Personne n'a aucun intérêt à la prévention, puisque les primes et les franchises sont insensibles à ces efforts de prévention. Et donc, il faut inventer un dispositif qui donne plus envie et plus les moyens à tout un chacun, particulier et entreprise, d'investir dans la direction de la prévention.
Qui contraigne, Monsieur Langrenet, on va le dire comme ça, qui contraigne justement à faire de la prévention pour éviter les incidents divers et variés.
Alors, on a proposé des mesures dans trois directions. Ouais. Premièrement, le financement. Ouais. Et donc l'accompagnement des particuliers, des entreprises pour réaliser des diagnostics et des travaux. Deuxièmement, l'accompagnement dans le maquis des intervenants, à la fois au plan des diagnostics et à la fois au plan des travaux, en référençant par exemple des professionnels dans ce domaine. Et troisièmement, la sensibilisation. Et la sensibilisation, elle peut se faire de deux manières. D'abord par l'animation, si je puis dire, d'événements que peuvent produire les assureurs, à l'instar de la prévention routière, qui a fait un excellent travail pour diminuer les sinistres corporels, mais aussi, c'est vrai, par des mesures plus prescriptives, notamment en direction des résidences secondaires et locatives, en second lieu, après sinistre, puisque c'est après sinistre qu'on est le plus sensibilisé.
Voilà pour les quelques-unes des propositions que vous égrenez dans ce rapport qui a été rendu public aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Langrenet, président de l'association environnementale Atelier du Futur. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. Il est 18h31.
BFM Business, l'info éco.
Allez, 18h31, je vous redonne les grands titres de l'actualité. C'est la bonne nouvelle du jour. L'emploi des cadres résiste envers et contre tout. D'après les chiffres de l'APEC qui sont sortis ce midi, quelque 330 000 cadres ont été recrutés l'an dernier, plus 7%. Cette année, le nombre d'embauches devrait être supérieur à 2%, mais globalement, il n'y aura pas d'effet de retournement d'après l'APEC. Pendant ce temps, lui, gouvernement continue à lancer des pistes pour trouver quelques milliards de plus. Gabriel Attal a donné un os à ronger à l'aile gauche de sa majorité aujourd'hui. Il lui réclame de plus en plus ouvertement des hausses d'impôts ciblées. Gabriel Attal leur demande de faire d'ici juin des propositions pour taxer les rentes. Moody's rassure un petit peu la France, elle qui pourrait potentiellement dégrader la note française le 26 avril, sauf qu'elle a laissé entendre ce matin que ça pourrait bien ne pas être le cas. Toute nouvelle décision négative est conditionnée à une nouvelle hausse importante de l'endettement que nous jugeons improbable. Voilà ce qu'a dit l'agence Fitch ce matin. Et puis, gros contrat pour Naval Group qui va vendre à l'Indonésie deux sous-marins de type Scorpène, des sous-marins à propulsion électrique, diesel électrique, contrat qui avoisine les 2 milliards d'euros. 18h33, on vient avec Audrey Tcherkov et nos experts. Première partie dans un instant jusqu'à 19h. A tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h36 sur BFM Business. Audrey Tcherkov nous a rejoint. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Et nos experts, les premiers experts sont là. Stéphanie Villers est avec nous. Bonsoir Stéphanie. Économiste et conseillère économique chez PwC France. Et puis Sébastien Lella. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Entrepreneur économiste à la Fondation Concorde. Alors, vous avez entendu Jean-François Husson, l'homme qui a fait le buzz il y a 10 jours.
Oui.
Descente à Bercy, qui a fait beaucoup causer pour... Regardez de près ce qu'était l'ampleur des déficits. Qui a remis une pièce dans la machine tout à l'heure? Il dit clairement la vérité n'a pas été faite à 100% sur l'ampleur des déficits. Écoutez ce qu'il nous disait il y a quelques instants sur BFM Business.
Effectivement, c'est des notes que le gouvernement a gardées par-devers lui.
Oui.
C'est son droit. Il retient l'information, oui, oui. Il a le droit. Mais il a surtout le droit d'agir. Et quand je dis le droit, il a un devoir d'agir. Et il a fait ni l'un ni l'autre. Là, aujourd'hui, c'est la face nord et on est à plus de 3000 mètres. Puisqu'on a plus de 3 000 milliards de dettes. Donc, je pense que l'heure est grave et il est temps que le gouvernement pose les choses. De toute façon, il va devoir le faire.
Oui.
Puisque nous avons une échéance là, ce mois-ci, par rapport au programme de stabilité européen. Oui. Donc, c'est bien l'Europe, mais il faut aussi, je dirais, être au rendez-vous et notamment des comptes bien tenus.
Ben c'est quand même assez grave, parce que ce que Jean-François Husson vous disait tout à l'heure, Guillaume, c'est que le gouvernement n'a jamais cherché, en réalité, à redresser la situation, alors que l'administration a multiplié les alertes mi-2023, et que par ailleurs, la probabilité de non-atteinte des objectifs, notamment concernant le déficit, était connue avec quasi certitude vers novembre 2023. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a mené des débats qui étaient complètement insincères, et c'est assez humiliant pour le Parlement, Stéphanie.
Oui, et c'est presque inquiétant pour la suite, hein, sur les prévisions faites pour les déficits à venir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la capacité du gouvernement de pouvoir prévoir une croissance bon an mal an qui était bonne, hein, parce qu'ils avaient prévu, je rappelle, 1% de croissance pour 2023, on est à 0,9, donc oui. On n'est pas si loin. Et normalement, en fait, vous savez que les recettes, ils sont vraiment corrélées à la croissance. Rappelez-vous, quand il n'y a pas de croissance, quand la croissance chute, on raconte que on peut pas arriver à ces objectifs-là parce qu'il y a eu un choc qui nous a pas permis d'atteindre ces objectifs. Or 2023, il n'y a pas eu de choc puisse expliquer en fait.
Au contraire, parce que l'inflation, enfin le choc inflationniste a plutôt boosté les recettes de l'État.
Voilà. Et je pense que les agences de notation, même s'il y a eu un signal positif qui vient d'être adressé, c'est quand même leur devoir de regarder la trajectoire du déficit en fonction en fait des prévisions de croissance. Lorsqu'on a aux alentours de 1% de croissance, on peut pas faire un déficit de 5,9% sans inquiéter la place financière.
Ça semble compliqué, Sébastien.
Alors, quand on a voté le budget, en réalité, on était encore au-delà en prévision de croissance. Alors, il y avait toute une gamme de prévisions, ça allait jusqu'à 1,4%. Là où le gouvernement était un peu cavalier, c'est que... Et on a la même chose, regardez les chiffres, par exemple, des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On a des scénarios comme ça qui ont été faits par les économistes, oui, de recettes. Ça peut être 7, 8 ou 10 milliards de recettes. Bien évidemment, le gouvernement a pris 10 milliards. Ils ont fait la même chose avec la croissance. Oui. Et si on faisait ça, nous, dans nos entreprises, on se planterait en permanence. Donc, je ne crois pas qu'il faille parler, en l'occurrence, de mensonges ou de fraude, comme certains le font. C'est plutôt un comportement un peu cavalier. Ils se sont peut-être dit, ça va passer. si ça s'améliore en fin d'année, un peu plus de recettes avec l'inflation. Force est de constater que ça ne marche pas. Et en tout cas, l'opération vérité, pour l'instant, alors, elle est en cours. On va en reparler, mais très clairement, on cherche de l'argent.
Non, mais c'est là ça, où on peut en trouver. Le sénateur, il nous dit que toute la vérité n'a pas été faite. Il a sorti ce chiffre qu'il faudra vérifier. Il nous dit, en fait, fin 2025, nos déficits devaient être à 3,7% du PIB. Donc, il dit on ne sera pas. Mais il dit, si on voulait atteindre cet objectif, il faudrait économiser 65 milliards d'euros.
Bah, ça, c'est un chiffre étant égal par ailleurs. Et maintenant, d'abord, il faudra vérifier les chiffres, effectivement. Si c'est l'écart, parce que les sommes sont faramineuses.
C'est vraiment nous cacher les choses, si c'est ça.
Voilà. Aller chercher 10 milliards par an, c'est déjà dur. Oui. 20 milliards, c'est très compliqué, mais on peut le faire. 65 milliards par an, il faudra restructurer tout l'État. Donc, à vérifier. Et puis, attention aussi avec ces chiffres. Encore une fois, il y a un aspect comptable, tout le monde comprend l'aspect comptable, mais il y a aussi un aspect plutôt macroéconomique, plutôt prudentiel, où il faut arriver à se projeter, c'est un exercice difficile. Comme quand on fait un BP, je crois surtout qu'il faut imposer aux politiques, quand ils ont plusieurs scénarios macroéconomiques, de faire comme dans le monde de l'entreprise, de prendre une moyenne, une médiane, et pas de garder uniquement le scénario le plus optimiste. C'est ce qui s'est passé, je vous dis, pour les JO. Regardez les JO, on va vers une catastrophe pour les JO, parce que tout a été calibré avec 10 milliards de recettes, alors qu'en fait, les économistes vous disent... En moyenne, on atteindra les 7, mais entre 7 et 10 milliards.
Alors d'accord, ok, très bien, mais est-ce que pour 2024, la trajectoire qui est prévue dans la loi de programmation des finances publiques...
Non, c'est pas encore la bonne.
Peut être tenue.
Non, on va encore être obligé de trouver des économies.
Ben voilà. Parce que les 4,4%, ça semble quand même difficile, Stéphanie.
Oui, en fait, c'est assez nébuleux à prévoir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'en fin d'année 2023, en fait, comme ça s'est ralenti, les entreprises étaient moins au rendez-vous et il n'y avait toujours pas les consommateurs.
Et ça, on ne s'en serait pas rendu compte avant début 2024.
Voilà. Il y a eu des mauvais chiffres, donc de mauvaises recettes. Pourtant, en fait, ce qui se passe là, il faut pas rater l'élan conjoncturel qu'on est en train d'entreapercevoir. C'est qu'on voit que les consommateurs sont en train de revenir, de dépenser un peu plus que l'année précédente. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que l'inflation est en train de se tarir, que c'est un problème qui est passé, et que le pouvoir d'achat a été maintenu, qu'ils ont pu se constituer une certaine forme d'épargne pour la majorité.
Une épargne historique.
Une épargne historique, absolument. Et il y a cette envie de consommer davantage. Et du côté des entreprises, en fait, il y a eu une pause dans leur investissement parce que les entreprises se sont dit on est resté optimiste pour la première partie de l'année 2023. On va commencer à regarder ce qui se passe parce que nous, on a besoin de regarder nos carnets de commandes et notre chiffre d'affaires. Et si, en fait, ils veulent des facteurs de réassurance, et le premier, c'est de revoir le consommateur revenir sur les marchés, dans le commerce. Et ça, à ce moment-là, si on adresse un signal avec une augmentation des impôts pour les entreprises ou pour les ménages, le risque, en fait, c'est de couper ce petit élan qui est en train de se mettre en place. Donc, parce que, encore une fois, la croissance, si elle est plus tonique que prévu, c'est des recettes supplémentaires.
Mais alors, parce que vous parliez des carnets de commandes des entreprises, si on regarde un des indicateurs les plus avancés du PIB, qui est les directeurs d'achat, les taux sont catastrophiques. Mais depuis 12 mois. Donc enfin, on peut s'attendre à ce qu'on frôle la récession cette année, non ?
Oui, et en plus, pour l'instant, toutes les hypothèses budgétaires, on revient encore aux hypothèses de croissance, c'est 1% pour Bruno Le Maire, mais quand on regarde les divers instituts, on n'y est pas. Enfin, il faudrait une bonne surprise pour atteindre les 1% cette année. On est plus bas.
Non, mais c'est comme l'année dernière, les instituts prévoyaient maximum 0,5, 0,3, 0,5.
Finalement, on a fait mieux.
C'est quand même le gouvernement qui avait raison dans l'histoire. Donc, il ne faut pas forcément suivre des instituts pessimistes qui ne se rendent pas compte. Moi, nous, quand on interroge les entreprises, on voit en fait que les entreprises s'attendent à avoir davantage de consommation, et ce qui leur permettra en deuxième partie d'année d'investir davantage. Et c'est pour ça que les entreprises n'ont pas l'intention d'augmenter les prix de vente. Et ça, c'est aussi une bonne
nouvelle. Et on le voit dans l'emploi des cadres aussi, où on a plutôt de bonnes nouvelles, effectivement.
Oui. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, une chose est claire, c'est que le gouvernement a besoin d'argent. Et la question, c'est de savoir s'il va mettre la main sur une partie du trésor de guerre de l'Agirc-Arrco. Catherine Vautrin, apparemment, d'après des informations de presse, aurait relancé l'idée en coulisses.
Oui, toujours dans l'idée que la réforme des retraites a permis au régime des retraites complémentaires de faire des excédents en plus. Et que donc, l'État piochait dedans. Bah, écoutez ce que disait ce matin le patron de l'Agirc-Arrco, François-Xavier Celeret, qui était très catégorique. Il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de magot, il n'y a rien. Écoutez ce qu'il disait.
D'abord, ces cotisations, elles appartiennent aux salariés du privé. Ce régime de retraite, il appartient aux salariés du privé. Et là, la caractéristique de l'AGIRC-ARRCO, c'est que quand on travaille plus longtemps, on a une retraite plus élevée. Nous sommes, comme on dit, un régime contributif. Donc, ces cotisations, cet excédent relatif, ce rendement relatif, alors c'est pas un excédent, c'est un rendement relatif, il est utile pour garantir le paiement des retraites de tous les salariés du privé qui travailleront un peu plus longtemps demain, mais qui aussi continueront à vivre un petit peu plus longtemps. Donc, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de magot, ce sont des recettes, ce sont des réserves qui sont utiles aujourd'hui et demain.
Oui, alors, sauf que en réalité, ce qu'il faut quand même dire, c'est que la réforme des retraites poussée par le gouvernement, même si in fine elle est très déceptive, elle a quand même permis au régime de générer 1 milliard de plus de bénéfices. Et l'argument du gouvernement se trouve précisément là. Et c'est ce qu'ils veulent chercher, ils veulent récupérer ce milliard.
1 milliard 6 exactement, en 2026, 3 milliards en 2030, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, l'AGIRC-ARRCO, c'est des excédents énormes. Le gouvernement, c'était ce qu'ils avaient dit l'an dernier, rappelez-vous, et puis ça n'a pas marché, hein, mais il y avait déjà eu le débat, on refait le même débat pratiquement 12 mois après. Mais ce qu'ils avaient dit à l'époque de la réforme, ils avaient dit, voilà, la réforme, elle a été quand même assez impopulaire, on en a subi un coup politique, mais grâce à cette réforme, on vous donne aussi des économies. Donc les économies, je crois que c'est à partir de 2026, 6 milliards d'euros en année pleine, puis après on va jusqu'à 10 milliards, ça augmente. Et l'AGIRC-ARRCO, c'est à peu près 20% de ça, donc ça fait 1,2 milliard d'euros par an d'économies supplémentaires.
Potentiellement 3 milliards horizon 2030.
Voilà, potentiellement beaucoup plus. Et l'argument, c'est de dire, attention, on ne vient pas piocher dans vos excédents historiques, voilà, etc. On va venir piocher dans les économies à venir que vous allez faire grâce
qui sont
à notre
uniquement
réforme.
Liées à la réforme,
voilà,
de votre
sont uniquement liées à la réforme. Ça se tient. Le sujet, c'est de savoir s'il y aura vraiment ces rentrées-là, quel est le rythme de notre économie. Voilà, toujours pareil, comme disent les économistes, toutes choses étant égales par ailleurs.
C'est toujours tentant quand vous avez un matelas de 78, 79 milliards d'euros derrière, quand même.
Oui,
qui appartient
justement au salarié privé. Non,
au salarié du privé.
Pas au gouvernement.
Et à la bonne gestion du groupe paritaire qui représente AGIRC-ARRCO. Donc, c'est étrange de dire, on vous a permis de faire des économies supplémentaires d'un milliard.
Et oui, on vous les ponctionne.
On les récupère de l'autre. Ensuite, voilà, on commence à puiser 1 milliard sur les 78 milliards, mais après...
On pourra aller bien plus loin.
Voilà, il restera 77 milliards. Et est-ce que ça va véritablement inciter l'État à se réformer s'il y a effectivement cette manne qui est à côté et qui se laisse faire? Parce que en fait, le risque, c'est que ça ne s'arrête pas là. Donc il faudrait... D'autant qu'en fait, le message est assez ambigu, parce que, comme le disait le président de l'AGIRC-ARRCO, cette somme, en fait, elle est réinvestie sur les marchés financiers. Donc,
oui, c'est vrai. Elle est aussi faite pour revaloriser les pensions des adhérents, mais c'est vrai que les pensions, elles ont été revalorisées il y a quelques mois de 4,5%.
Alors, ce qui, effectivement, est un petit peu fallacieux, c'est que normalement, les sommes sont réinvesties, ce qui veut dire qu'on a un retour sur investissement, et en fait, en les prenant et les donnant au régime général directement, on va perdre le retour sur investissement sur ces sommes-là. Donc en fait, on perd beaucoup plus que 1, 2 ou 3 milliards d'euros par an, parce qu'on perd les retours, le rendement potentiel qu'on aurait pu avoir sur ces sommes en les investissant.
Et puis ça va mettre un coup de canif aussi au paritarisme.
Alors, c'est surtout ça, sur le principe, bien sûr. Philosophiquement, c'est inacceptable.
Ça montre surtout que les partenaires sociaux étaient bien meilleurs gestionnaires que l'État. Même des députés, des représentants républicains le disent ouvertement aujourd'hui. On ne veut pas que l'État reprenne la main sur ce magot. Non. Parce qu'on montrait qu'ils savaient gérer, finalement.
Ils devraient plutôt s'inspirer de la gestion des groupes paritaires. Ensuite, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de grosses marges de manœuvre de la part de pour AGIRC-ARRCO. Pourquoi ? Parce que pour la réforme de l'assurance chômage, il faut rappeler que Emmanuel Macron a retiré les cotisations salariales sur le chômage. Ce qui fait qu'en fait, la voix des syndicats au sein de ce groupe paritaire de l'UNEDIC pèse moins, puisque en fait il y a pas, les salariés ne cotisent plus. Alors c'est plus simple après à l'État d'aller vouloir faire des réformes lorsque les syndicats n'ont pas de poids financier. Pour AGIRC-ARRCO, les salariés du privé continuent à cotiser.
Oui, c'est ça, parce que le secteur privé finance déjà les retraites du secteur public via l'impôt.
Oui. Oui.
Donc a priori, on aurait pu imaginer qu'ils les laissent tranquilles, mais ça ne sera pas le cas.
Sinon, si on veut faire des économies, alors Sébastien, on va en parler, on en dira un mot tout à l'heure, mais on en dit déjà un mot. Vous avez sorti ce week-end un rapport avec les contribuables associés. Alors le titre est assez évocateur, la simplification administrative, sortir de l'enfer bureaucratique français. Et si on s'attaquait une bonne fois pour toutes au chantier de la complexité administrative, vraiment pour faire des économies, il y a des économies à faire substantielles?
Alors oui, d'abord le coût de la complexité administrative en France, alors c'est assez difficile à évaluer, mais on a quand même 20 années d'études sur ça, c'est entre 3 et 4% du PIB, donc on va dire en gros, enfin une moyenne de 70 milliards d'euros par an. Qui en pâtit? Vous, moi, tout le monde, il y a un coût d'opportunité de la complexité administrative, bien évidemment les entreprises, donc il y a de nombreuses mesures qui sont, de propositions de réformes qui sont liées aux entreprises, notamment aux petites entreprises dans mon rapport, mais il y a aussi l'administration elle-même, parce qu'elle perd en efficacité et en efficience. Donc c'est un gros morceau. L'efficacité de l'administration elle-même, l'efficacité dans son action, c'est déjà des dizaines de milliards d'euros par an. Voilà. C'est pas facile à faire, c'est la réorganisation managériale, c'est la simplification de documents, de CERFA, etc.
Ça, c'est le chantier d'un quinquennat entier, on fait pas ça à mi-mandat.
Mais c'est la promesse de Gabriel Attal.
Alors d'abord, c'est Emmanuel Macron s'est réemparé du sujet, rappelez-vous, lors de sa première grande intervention télévisée Fleuve, là, au début de l'année. Mais enfin, ça fait des années qu'on en parle, on est en train de célébrer les 50 ans du décès de notre président Pompidou. C'est déjà lui qui disait arrêtez d'emmerder les Français, rappelez-vous la formule.
Oui.
Voilà, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais étudiant, il y avait un président du Conseil d'État, Renaud Denoy de Saint-Marc, qui parlait déjà du droit bavard. En fait, on a lancé ces chantiers-là à la décennie précédente. Rappelez-vous François Hollande, Thierry Mandon, le choc de simplification. Ouais. Mais malheureusement, il n'y a pas de.
Il y a la loi Pacte aussi.
Il n'y a pas eu de politique pérenne en fait en la matière, parce que au tout début de son quinquennat, Emmanuel Macron l'a un peu oublié, puis là en début de deuxième quinquennat on se réveille à nouveau, on voit que le terme est revenu avec certains ministres, souvent il y a des ministres de la transformation numérique et de la simplification. Donc c'est pas un effort constant, mais en fait on en parle depuis une vingtaine d'années. Je peux vous dire que la première chose à faire quand on sort un nouveau rapport, c'est d'aller lire tous les autres rapports qui ont été publiés, les études, et il y en a
sur le sujet, il y en a beaucoup. Voilà, mais c'est ça, mais beaucoup. Quand même, avec une mesure phare en tête, cette promesse de Gabriel Attal de tout simplement simplifiée, elle s'illustre avec cette mesure de l'instauration d'un test PME. C'est-à-dire que systématiquement, toutes les mesures qui concernent les PME devraient être testées avant d'être votées. Ça semble assez logique. Est-ce que vous y croyez ?
Les entreprises, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent que toutes les normes ne sont pas à jeter. Il faut quand même un cadre juridique et ça permet quand même de donner une orientation, une visibilité pour les entreprises. Il faut juste que les normes, déjà d'une, arrêtent de
s'empiler.
Et de s'empiler. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est plutôt une démarche politique. C'est-à-dire que chaque politique trouve une solution par rapport à un problème avec une nouvelle norme. Plutôt que de dynamiser une activité, eh bien, ils vont trouver chaque politique a envie de marquer son empreinte en réglementant. Il faut quand même expliquer que ces empilations de réglementations qui sont faites par le va-et-vient de ces politiques freinent l'activité économique, parce que notamment les PME, elles sont toutes ces normes qui sont inventées, parce qu'on est quand même on est champion dans ce domaine.
Un mot, Sébastien, on y reviendra tout à l'heure. Vous voulez revenir sur le principe de précaution carrément. Vous dites rien que ça, c'est déjà un frein à l'initiative, véritablement.
Oui, alors c'est un exemple que je prends. De manière générale, on y reviendra, mais l'idée, c'est de dire, pour moi, quand on simplifie uniquement en partant du terrain, secteur par secteur, ça marche pas, parce qu'après, on a des normes qui reviennent à nouveau, on a un nouveau ministre qui arrive. Et donc, je recommande de faire ce qu'on avait fait, par exemple, avec la commission Badinter il y a quelques années, de se dire, le droit doit définir dans chaque secteur des principes généraux, et après, de faire confiance aux gens sur le terrain. Et le principe de précaution, c'est un bon exemple, parce que c'est un principe général, et puis finalement, il a essaimé de partout dans le droit, et donc, vous voulez construire un logement, on vous oppose le principe de précaution, vous voulez innover.
Hautement sensible à dire, start-up. On touche au principe de précaution, c'est quand même.
Et je mets les pieds dans le plat, en plus c'est rentré dans le bloc de constitutionnalité, donc c'est la partie la plus dure, mais on pourrait faire la même chose avec d'autres grands principes comme ça. Donc c'est aussi un appel, pareil, je le fais, je dis à peu près la même chose, aux politiques de cesser de vouloir régenter tous les détails de notre vie quotidienne et de définir des principes généraux pour nous protéger. Et ensuite, de déléguer aux acteurs de terrain, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, les maires, les chefs d'entreprise, les représentants du personnel, et arrêter d'avoir ce droit bavard qui se mêle de tout et qui prétend tout régenter.
Mais en tout cas, tout le monde en parle, en effet, d'Emmanuel Macron à Gabriel Attal, mais on se rend bien compte que c'est compliqué de simplifier.
Oui. Il faut le faire tous ensemble, donc j'amène quelques idées pour les aider.
Vous dites qu'il faut réduire au moins 10% le stock normatif actuel. Ah oui, vous ne voulez pas tout éradiquer non plus.
Non, mais c'est ce que nos voisins ont fait. C'est Pays-Bas, Allemagne, la moitié
les
du
Canadiens
rapport
l'ont fait, les Canadiens
qui est sur les expériences étrangères. Oui. Et les expériences étrangères, il y en a certaines adaptables facilement. Canada, Pays-Bas, Allemagne. Il y a des expériences un peu plus dur, on va dire, hard, c'est peut-être ce qu'est en train de faire Javier Milei en Argentine, ou même Trump en 2016. On peut déjà regarder au moins nos voisins européens.
Voilà pour ce rapport.
Ça c'est dit. Oui. On va fêter un anniversaire, puisque c'est en 2004 que Larry Page et Sergey Brin ont fondé Gmail. C'est le 20e anniversaire de Gmail. Frédéric Simotel.
Oui, tout le monde a cru, rappelez-vous, c'est 20 ans, à un poisson d'avril, puisqu'ils l'ont sorti un 1er avril, et en disant, voilà, nous on va sortir, alors que tout le monde avait des messageries gratuites, et on dit, non, nous on va sortir une messagerie gratuite, mais on va mettre 1 gigaoctet de données, c'est-à-dire près de 500 fois plus que celle de Yahoo, parce qu'à l'époque c'était 30-60 mégas de stockage.
Donc on a cru que c'était un poisson d'avril à l'époque.
Ah bah oui, parce qu'ils arrivent en disant, on va sortir une messagerie, vous pourrez stocker plus de 16 000, enfin vous pourrez visionner plus de 16 000 messages, alors que jusqu'alors les messageries c'était 50 messages, sinon il fallait supprimer. Oui, en stockage vous aurez 1 giga de données, alors que jusqu'alors c'était entre 30 et 60 mégas de données. C'est, on est quand même dans un multiple de 250 à 500 fois plus entre Yahoo et Microsoft. Donc tout le monde avait pris ça pour vraiment une, et même le journaliste à l'époque qui avait été appelé chez Google, puis Google n'était pas l'empire encore d'aujourd'hui, donc tout le monde a eu ça un peu sous la en souriant, en se disant qu'est-ce que c'est que cette, et puis non, c'est, ça a vraiment existé. Aujourd'hui c'est quand même 1,8 milliard de comptes actifs,
hein. Ah ouais, c'est énorme.
Je regarde un peu les chiffres, 15 gigas, donc on peut stocker gratuitement 15 gigas de stockage. Oui. Alors ça vient vite, on vient vite à la limite, hein, avec les photos et tout ça, parce que Google pariait beaucoup sur le fait qu'on purge nous-mêmes notre messagerie. En fait je pense que vous êtes comme tout le monde, hein, on attend qu'on nous prévienne pour surtout ne rien faire et payer les 0,50 de plus, ouais, pour accéder aux 100 gigas.
Non, mais c'est intéressant parce que quand on parle de simplification, on se rend compte aussi que ce sont les initiatives et l'innovation du secteur privé qui fait beaucoup plus avancer les choses que ce que peut faire le secteur public.
Oui, la seule chose où ils n'ont pas réussi à percer, c'est l'univers de l'entreprise, puisque là, Microsoft reste avec 95% de...
Oui, alors moi, sur toutes mes plateformes entreprises, c'est l'email, c'est Gmail.
Oui, mais là, en part de marché, c'est 95% Microsoft. Et qui, Microsoft, pour la petite histoire, aujourd'hui, devrait se séparer de... Enfin, pas se séparer de Teams, mais ne devrait plus intégrer Teams en natif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
pourquoi
vous êtes justement pour donner sa chance aux autres, au Zoom, au WebEx.
Ah oui, c'est ça, c'est la fameuse régulation.
Ils avaient compartimenté il y a 6 mois en Europe, et là, ils compartimentent un peu partout dans le monde.
Voilà, et on se retrouve à faire un peu ce qu'ils avaient fait il y a quelques dizaines d'années aussi avec Internet Explorer, qui était leur navigateur standard, et puis un jour, on leur a dit non, il faut que les gens puissent choisir. Bien là, c'est pareil, quand vous ferez une réunion, on pourra choisir.
J'ai une question, est-ce qu'en 2004, quand ils lancent, il est disponible en France. Moi, je vis à l'étranger et je l'ai le jour du lancement.
Il est disponible partout dans le monde.
Dans le monde entier.
Dans le monde entier. Alors, avec des adresses .com à l'époque. Le .fr viendra un peu plus tard, mais c'était disponible partout dans le monde.
Et c'était pas un poisson d'avril. Voilà, Gmail, 20 ans, toutes ses dents.
Ça s'appelait le projet Caribou.
Ça bon? Oui. Sérieusement.
Et puis et derrière, et c'était la première pierre, hein, parce que derrière il y a eu Google Maps, Google Docs, YouTube qu'ils ont racheté, ils ont lancé Chrome, enfin voilà, après c'est tout.
Et ben voilà,
l'histoire que l'on connaît. Ouais.
Bel anniversaire à 20 ans à Gmail qui fête donc ses 20 ans aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric, merci Stéphanie, Sébastien. On vous retrouve dans un quart d'heure. Hein, les experts reviennent bien sûr jusqu'à 20h sur BFM Business. Nous on se retrouve bien sûr dans un instant.
Et oui, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors, on a confirmation que ce marché-là résiste quasiment à tout. Quasiment à tout. C'est le marché de l'emploi des cadres. On a battu des records. On devrait encore embaucher beaucoup de cadres cette année, on va voir ça dans un instant. Et puis on va parler bien sûr du gouvernement qui est toujours en mode chasse aux milliards.
Et oui, avec toujours autant de pistes qui circulent. Gabriel Attal a fait un geste vers l'aile gauche de sa majorité aujourd'hui. Il réclame des propositions pour taxer les rentes avec la question qui revient sur le tapis de l'Agirc-Arrco. Et puis on dira un mot de ce rapport très attendu qui est sorti tout à l'heure. Comment maintenir l'assurabilité du territoire français face à la multiplication des incidents climatiques? Alors la réponse est simple, il va falloir responsabiliser tout le monde, État, collectivités, particuliers et entreprises, et puis faire bien sûr de la prévention.
Et qui sera avec nous pour parler de tout ça, entre autres dans un quart d'heure, Sébastien Lay va revenir, Stéphanie Villers va revenir, et puis Franck Boisy, journaliste économique à Libération, sera avec nous. Voilà le programme, non exhaustif bien sûr, jusqu'à 20h.
A tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, on le disait, il y a quand même des fondamentaux auxquels on peut se raccrocher, et c'est tant mieux. Bonsoir Raphaël Couder. La bonne nouvelle du jour, c'est l'APEC qui le dit, on va continuer à recruter des cadres cette année. Moins que l'an dernier, mais on va quand même en recruter encore beaucoup en 2024, Raphaël.
Absolument, les entreprises vont recruter cette année environ 337 000 cadres selon les projections de l'APEC. Ça correspond à une hausse d'environ 2% par rapport à l'année dernière. En 2023, c'était 7% d'embauches supplémentaires. Donc effectivement, on le voit, l'intensité des recrutements ralentit, mais globalement, ce marché de l'emploi des cadres continue tout de même de croître légèrement. Dans le détail, c'est très contrasté selon les différents secteurs d'activité. Les services à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire l'ingénierie, l'informatique, la R&D sont toujours très bien orientés. Bonne surprise également, l'industrie va poursuivre ses recrutements. En face, en revanche, la construction et l'immobilier s'enfoncent dans la crise. Il y aura moins de recrutement de cadres dans ces secteurs cette année. Au niveau géographique, la dynamique continue d'être portée par les traditionnelles places fortes de l'emploi cadre. L'Île-de-France, par exemple, devrait représenter cette année près d'une embauche de cadre sur deux. Contraction des embauches attendues en revanche en Nouvelle-Aquitaine ou dans les Hauts-de-France. De légers reculs qui sont toutefois à relativiser, nous dit l'APEC, car les niveaux de recrutement resteront cette année proches des records atteints en 2023.
Marché des cadres assumé. Merci beaucoup Raphaël. Et puis donc le directeur général de l'APEC, Gilles Gâteau, qui sera l'invité de BFM Business, ce sera demain matin en direct à 8h15. Pendant ce temps, je vous le disais, le gouvernement continue à lancer des pistes pour trouver quelques milliards de plus. Et là, bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Là, on est sur un terrain sensible. Il a demandé à ses députés de lui faire des propositions pour taxer les rentes. Et il veut un retour d'ici le mois de juin sur ce sujet, Thomas.
Exactement, Guillaume. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Le Premier ministre veut recadrer le débat parce qu'il voit bien que sa majorité part un peu dans tous les sens sur ces questions de hausse d'impôts. D'un côté, vous avez l'aile gauche de la majorité qui pousse pour des hausses d'impôts ciblées. Des élus influents de la majorité, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, le président de la commission des lois, Sacha Houlier, ou encore le président du groupe Modem à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei, veulent que les entreprises contribuent davantage à l'effort de rétablissement des comptes publics. En face, vous avez l'aile droite de la majorité des poids lourds, comme le rapporteur du budget à l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, le whip de la majorité à la Commission des Finances, Mathieu Lefèvre, qui ne veulent pas de ces hausses d'impôts ciblées. Et puis au milieu, vous avez le Premier ministre qui essaie de trouver la ligne de crête. Il avait réaffirmé la semaine dernière aux 20h de TF1 son opposition à des hausses d'impôts sur les ménages et les entreprises, mais il avait dit aussi, je le cite, qu'il n'avait jamais eu de dogme sur le sujet des super profits. Il avait rappelé que les énergéticiens et les laboratoires de biologie médicale avaient eu droit à une taxe spécifique. Et on saura donc au mois de juin, au plus tard, à l'issue de cette mission, si de nouveaux secteurs ou entreprises seront concernés pour le budget 2025.
Mais François Hollande avait ses frondeurs, donc pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas les siens finalement? Voilà, c'est un vaste.
Il n'est pas là, mais ça commence un peu à ressembler.
Ça commence un petit peu à s'agiter au sein de la majorité. Ouais. Cette hausse rongée qui a été donnée aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Et puis alors, vous savez qu'au milieu de tout ça, dans trois semaines, le 26 avril, les agences de notation Fitch et Moody's sont susceptibles de dégrader la note de la France. Beaucoup le voient venir gros comme une maison, sauf que Fitch a clairement laissé entendre tout à l'heure qu'en fait, elle pourrait ne toucher à rien. Toute nouvelle décision négative est conditionnée à une nouvelle hausse importante de l'endettement que nous jugeons improbable. Voilà ce qu'a dit Fitch très exactement dans un communiqué qui est sorti à la mi-journée, mais donc on aura le fin mot de l'histoire évidemment le 26 avril prochain, donc dans un peu plus de trois semaines. Dans l'actualité, on voulait vous parler de ce rapport qui est sorti aujourd'hui, le rapport Langrenet sur l'assurabilité des risques climatiques en France. Il a été repoussé à plusieurs reprises. Bonsoir Alexandra Paget.
Bonsoir.
Document de 116 pages qui propose de nombreuses pistes qui sont parfois, disons-le clairement, assez radical, Alexandra.
Oui, alors d'abord, il faut déjà dire que ce rapport était très attendu. Il était prêt depuis le 22 décembre. Il faut dire qu'il y a urgence, Guillaume, au regard des nouvelles intempéries et inondations qui ont touché plusieurs régions de France ce week-end. Alors, ces catastrophes naturelles à répétition ont un coût exponentiel. C'est bien tout le sujet. 6,5 milliards l'année dernière. Le gouvernement prévoit 70 milliards d'euros d'indemnisation additionnelle dans les trois prochaines décennies. Et ça fait peser le spectre d'un retrait des assureurs des régions les plus vulnérables. Alors, pour éviter ça, la première piste de Thierry Langrenet, que vous allez recevoir tout à l'heure, c'est la prime CatNat, catastrophe naturelle. Des particuliers et des entreprises, ils voudraient l'augmenter chaque année. Les auteurs du rapport préconisent une hausse de 12 à 20% en 2025 de l'assurance habitation, soit une augmentation annuelle de 16 euros par foyer, de quoi dégager 1,2 milliard d'euros. Deuxième proposition, pénaliser les propriétaires de résidences secondaires et locatives. C'est-à-dire que s'ils ne font pas le nécessaire pour protéger leurs biens, les assureurs pourront augmenter les primes et la franchise de l'assurance habitation un peu comme ils le veulent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Troisième idée, obliger les propriétaires à engager des travaux de prévention pour éviter les dommages à répétition. Les habitants des zones classées rouges, c'est-à-dire à risque élevé de catastrophes naturelles, seraient tenus de faire des travaux dans les 3 ans après un premier sinistre. À défaut, ils subiraient un triplement de la franchise pour les sinistres suivants. De même origine.
Voilà pour ce rapport sur l'assurabilité. Merci beaucoup Alexandra. Et puis on voulait vous dire un mot de cette première mondiale dévoilée par le CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Le CEA vient de publier une série d'images de cerveaux obtenues grâce à un scanner IRM doté d'un aimant surpuissant. C'est le genre d'innovation clairement qui laisse espérer des sauts médicaux importantissimes dans les prochaines années. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
Observer le cerveau humain avec une précision et une résolution inédites. C'est ce que promet ISE, un des scanners IRM les plus puissants du monde, capable de délivrer un champ magnétique d'une intensité de 11,7 Tesla contre 3 pour un scanner IRM classique. Cette installation va permettre aux scientifiques de redécouvrir le cerveau humain, d'observer les neurones en action, texture, contraste, veines. Sa résolution inédite devrait contribuer à faire des sauts technologiques dans la maladie d'Alzheimer, celle de Parkinson, la sclérose en plaques ou encore dans la psychiatrie. Au cœur de l'installation, un gigantesque aimant de 135 tonnes et de 5 mètres de diamètre, fabriqué par Alstom, un aimant supraconducteur refroidi à moins 271 degrés Celsius. Il a même fallu construire le bâtiment autour. Plus de 20 ans de travail pour les équipes du CEA et 70 millions d'euros ont été nécessaires pour réaliser cette prouesse scientifique. Un scanner qui, pour l'instant, est un outil expérimental. On ne verra pas ISO tout de suite dans nos hôpitaux. De nombreuses années seront en effet nécessaires avant de parvenir à miniaturiser une telle installation.
Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business, 19h09. On retourne sur les marchés.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage. La gestion intelligente qui réinvente la finance.
Les marchés, Bourse de Paris qui a redémarré ce matin à quelques jours de pause pour cause de fête de Pâques évidemment. On n'a pas redémarré pour rien, on perd quasiment 1% ce soir, 8130 points pour l'indice parisien. Bonsoir Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business. Bah, c'était pas tellement plus rose bonbon du côté de Wall Street en ce moment.
Non, loin de là, puisque vous avez trois indices américains qui perdent 1%. Alors là aussi, à Wall Street, on s'achemine vers la pire séance de l'année. Mais bon, il faut quand même pas oublier d'où l'on vient, avec des records qui ont été touchés ces dernières semaines. Alors, un cocktail de mauvaises nouvelles. Déjà, le pétrole qui, sur des plus hauts de 5 mois, à la porte des 90 dollars, avec de nouvelles tensions au Moyen-Orient et puis aussi dans le conflit entre la Russie et puis l'Ukraine. Donc, forcément, ça ravive eh bien, le cours du pétrole. L'once d'or qui, sur des plus hauts historiques, à la porte des 2300 dollars. Ajoutez également à cela quelques inquiétudes avec un nouveau bras de fer, peut-être, qui va se jouer entre la Chine et les États-Unis, puisque tout à l'heure, vous avez Xi Jinping qui a dit à Biden que Pékin ne resterait pas les bras croisés par rapport aux restrictions de technologie. Vous savez, dans la course à l'intelligence artificielle, Biden ne veut pas que les dernières plus de Nvidia et d'AMD aillent à la Chine. Bon, bah là, à voir comment ça va se concrétiser dans les prochaines semaines, mais à très court terme, ça pèse sur AMD qui perd quasiment 4% aujourd'hui.
Téléphone aujourd'hui de Joe Biden et Xi Jinping.
Voilà, donc une conversation téléphonique qui s'est tenue aujourd'hui sur ce sujet, mais aussi sur bien d'autres, à voir si un rendez-vous va avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc vous voyez pas mal de mauvaises nouvelles qui amènent à prendre des bénéfices. Trois indices américains qui perdent 1%. Après, ne l'oublions pas, d'où on vient bien sûr, avec des niveaux stratosphériques qui ont été touchés ces derniers jours. Et puis quand même un gain de plus de 12% au premier trimestre pour l'indice Nasdaq.
Voilà pour les marchés du côté de New York. Merci beaucoup Étienne Braque avec nous sur BFM Business, 19h11, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov, puis nos experts. Alors on va reparler un petit peu de ces milliards que le gouvernement cherche à faire rentrer. On entendait le sénateur Jean-François Husson qui nous dit aujourd'hui toute la vérité n'a pas été faite sur l'ampleur des déficits français. Et puis ces ballons d'essai qui continuent de circuler, Gabriel Attal qui veut taxer les rentes, et puis la Gercarco, le gouvernement qui ressort le dossier. Bref, beaucoup de choses pour aller chercher quelques milliards. On parle de ça et bien d'autres choses jusqu'à 20h, bien sûr, à tout de suite.
Présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, bientôt 19h15, ils sont là déjà un peu agités, nos experts. Audrey Tcherkov est avec nous, rebonsoir.
Rebonsoir.
C'est vrai qu'ils sont agités. Hein,
mais comme souvent.
Stéphanie Villers reste avec nous, rebonsoir Stéphanie, économiste, conseillère économique chez PwC France. Sébastien Lay, entrepreneur, économiste à la Fondation Concorde, rebonsoir. Et puis Franck Boisis qui nous a rejoint. Bonsoir Franck.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey.
Journaliste économique au quotidien Libération. Alors on est toujours dans cette chasse aux œufs. Non, c'est fini, c'est la chasse aux milliards désormais qui nous intéresse. Avec encore des pistes qui sont lancées, on en parlera dans un instant. On était tout à l'heure avec le sénateur Jean-François Husson, l'homme qui a fait le buzz il y a 10 jours en débarquant à l'improviste du côté de Bercy pour regarder la réalité des comptes, qui nous disait tout à l'heure, attendez, la réalité des comptes n'est pas encore connue, on nous cache encore des choses à Bercy. Écoutez Jean-François Husson, tiens.
Effectivement, c'est des notes que le gouvernement a gardées par-devers lui.
Oui.
C'est son droit. Il retient l'information, il a le droit, mais il a surtout le droit d'agir. Et quand je dis le droit, il a un devoir d'agir. Et il a fait ni l'un ni l'autre. Là, aujourd'hui, c'est la face nord et on est à plus de 3000 mètres, puisqu'on a plus de 3000 milliards de dettes. Mmh. Donc, je pense que l'heure est grave et il est temps que le gouvernement pose les choses. De toute façon, il va devoir le faire.
Oui.
Puisque nous avons une échéance là, ce mois-ci, par rapport au programme de stabilité européen. Oui, c'est bien l'Europe, mais il faut aussi, je dirais, être au rendez-vous, et notamment des comptes bien tenus.
Bon, c'est certain que la trajectoire économique prévue pour 2024, de toute façon, va être révisée. Mais ce qui est quand même grave, c'est que quand le gouvernement a présenté son budget pour 2024, évidemment, les partis d'opposition, mais aussi tous les organismes économiques se sont élevés d'une seule et même voix pour dire que c'était un budget qui n'était pas tenable et c'était un budget insincère. Et ce que Jean-François Husson explique, c'est que l'administration a donné plusieurs alertes au gouvernement durant 2023 qui n'ont pas été prises en compte et que le gouvernement n'a jamais cherché à redresser la situation. Franck Boisis.
Il y avait deux problèmes sur ce sujet-là. D'abord, la présente croissance était surévaluée.
Oui.
Et ensuite, à Libération, on a discuté avec des gens du terrain fiscal qui nous ont dit, très tôt, on a fait remonter à Bercy le fait que les rentrées fiscales, notamment sur la TVA et sur l'impôt sur les sociétés, ne rentraient pas à hauteur de ce qui était prévu. Donc, ceci était effectivement annonçable, envisageable, prévisible, choisissons les adjectifs que nous voulons.
Eux font mine d'avoir découvert ça en 2024, début 2024 apparemment. Hein, c'est ce qui nous...
Comme vous dites,
l'administration a remonté le 1er décembre 2023 le sujet sur la TVA, en effet.
Oui. Soit qu'on est peut-être à deux doigts de la commission d'enquête sur ce sujet-là pour savoir si effectivement il y a eu insincérité ou pas. Après, les projets de loi de finances rectificatifs servent justement à corriger les choses en la matière. Mais ce que vous disiez qui est finalement important, c'est la trajectoire. C'est-à-dire qu'on ne tiendra pas en 2024 ce qui était prévu initialement. Se pose donc la question récurrente des recettes et des dépenses. Et là, on sent qu'il y a un vrai débat et une majorité qui ne parle pas d'une seule et même voix.
Oui, parce que là, on le rappelle, Sébastien, le déficit prévu pour 2024, c'est 4,4%. On ne le tiendra jamais.
Alors, si la prévision de croissance qui a été annoncée, qui est de 1%, n'est pas tenue, on n'y arrivera pas. Parce que les deux sujets sont liés. Hein. Le déficit de recettes fiscales, il faut expliquer aux Français, c'est juste la croissance. Notamment sur l'IS, ils le savaient à peu près dès le début. Et je crois qu'on avait in fine perdu 4 milliards, rien qu'avec l'IS. Donc, on le sait. Moi encore une fois, on va pas faire une approche comme ça managériale, mais quand même, on est plutôt tous du monde de l'entreprise sur cette chaîne. Normalement, quand on a plusieurs prévisions et qu'on sait que c'est difficile, on fait le worst case, le best case et on fait la moyenne, quoi.
Voir un profit warning.
Il faut quand même forcer nos gouvernants, c'est peut-être le rôle d'ailleurs du Parlement, à prendre au moins la moyenne et ne pas les laisser. En fait, quand ils sont allés faire ce qu'ils appellent une sorte de perquisition à Bercy, c'est qu'il est tombé sur toutes les études. Et effectivement, il y avait certaines études qui étaient encore plus alarmistes, encore plus catastrophistes. Donc normalement, le rôle d'un gouvernement, c'est de lire ces études, de s'en nourrir, les services à Bercy, et puis après de s'accorder sur une moyenne, mais pas de partir sur le scénario le plus optimiste. Enfin, dans le monde, encore une fois, dans le monde du privé, de l'entreprise, personne ne raisonne comme ça, sinon on irait tout droit à la faillite. Donc, si on fait ça depuis 20 ans, c'est sûr qu'on s'en sort pas en matière de
financement. Quand vous entendez... Oui, Franck, allez-y.
Oui. Si vous me permettez, j'ai deux sens de divergence quand même. Quand vous dites, dans le monde de l'entreprise, on ne fait pas ça. Je me rappelle d'une récente grande entreprise que j'ai un tout petit peu couvert qui s'appelle Casino.
Ah oui.
Entre les réunions de
Stade...
Il y avait un petit peu plus
de différence, Franck, c'est qu'on voit bien, voilà, en fait, les pyramides, les empilements de dettes et les montages financiers douteux, ça ne tient jamais sur le long terme.
Non, mais quand vous entendez aujourd'hui l'État, Matignon nous répétait encore ce midi que vous verrez la semaine prochaine, on vous présentera un nouveau calendrier réactualisé pour aller amener les déficits progressivement sous la fameuse barre des 3% en 2027. Est-ce que vous y croyez, vous, Stéphanie? Vous dites, bah, finalement, en fait, on va gentiment, comme à chaque fois, repousser les échéances.
J'essaye d'envisager la faisabilité et comment ça peut fonctionner. Si on sait très bien que si on veut avoir une mesure rapide avec une efficacité rapide, ça, il faut augmenter les impôts. En fait, c'est la...
Ah bah justement, on va en parler. C'est au menu.
Quand même, voilà. Enfin.
Oui, alors attention, parce que sur qui?
Voilà. Et alors que les dépenses, en fait, toutes ces mesures-là, toutes les alors c'est ce qu'on appelle les réformes structurelles. Donc elles sont rarement lancées, très peu. Il y a eu la réforme des retraites. Mais il n'y en a pas vraiment d'autres. Et ça, on sait très bien...
Et la réforme des retraites a été largement déceptive sur la partie financière, finalement.
Enfin, en fait, ça se verra... En fait, ces réformes-là, ouais, c'est sur le long terme. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à résoudre une problématique de déficit en faisant une réforme sur de la dépense sociale. Hein. Mmh. C'est année après année, si on rogne, on gagne.
Alors justement, puisque vous parlez d'hausse d'impôts, vous avez vu ce qu'a dit ce matin le président délégué du Conseil d'analyse économique et Camille Landais. Le CAE s'est rattaché à Matignon.
C'est ça qui est important, c'est rattaché à Matignon.
Et il dit clairement, tout le monde nous répète au sein du gouvernement qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts. Il dit, ben pourquoi pas? Regardez l'ampleur des déficits, regardez l'ampleur des situations. Il dit, c'est absurde de ne pas envisager cette solution.
Il est dans son rôle en tant que macroéconomiste. Oui. Lui, c'est pas un comptable. Il dirige le CAE, il a raison de rappeler les différents leviers, de donner les différentes solutions. Donc il est parfaitement dans son rôle. Moi, c'est Camille Landais. Hein. Ce qu'il a dit ne me choque absolument pas. Il a raison de rappeler que dans certains cas, on peut jouer sur le levier des recettes. Prenons un exemple. Alors, je ne sais pas s'il va se produire, mais aux États-Unis, par exemple, si Biden est réélu, la trajectoire, c'est de dire, il y avait des tax cuts qui avaient été décidés par Trump. Elles doivent expirer en 2025. Et donc, il laisse les tax cuts expirer. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation d'impôts. Alors, simplement, il a mis la barre à un certain niveau de revenu, qui est élevé d'ailleurs, qui est 400 000 dollars. Donc en gros, tous ceux qui gagnent plus de 400 000 dollars par an auront une augmentation de la ponction fiscale, les autres non. Et il sait que comme ça, sur 5 ou 6 ans, il se rapproche, je crois, d'un déficit du PIB, d'une dette rapportée au PIB qui est aux alentours de 90% au lieu de
100%. Oui, alors ça peut se faire dans
certains pays. Donc après, la France, c'est un cas particulier, on va en discuter. On a une pression fiscale qui est déjà à 46% du PIB. Donc l'acceptabilité politique, elle est très très faible. On va voir quelles sont les solutions. Hein. On a parlé de taxes accélérantes. Mais en tout cas, Camille Landais, il est dans son rôle en tant qu'économiste.
Oui, il est dans son rôle.
Rappeler les différentes options.
Mais vous venez de le dire à demi-mot. On est déjà sur la première place du podium concernant les prélèvements obligatoires sur le capital et sur le travail. Donc il faut aller chercher d'autres leviers. Est-ce que c'est les rentes? Est-ce que c'est le foncier? Est-ce que c'est les super profits? Stéphanie.
Oui, faut surtout rappeler que lorsqu'on a des recettes qui arrivent à un niveau le plus élevé possible compte tenu de notre pression fiscale qui est la plus élevée des pays de l'OCDE.
Ouais.
Donc en fait, on se doute bien que...
On est repassé devant le Danemark. Hein.
Marge de manœuvre dans ce domaine-là, elles sont extrêmement faibles. Alors on peut toujours augmenter les impôts parce qu'on entend sur les plus riches, mais si c'est pour donner, c'est abaisser les impôts sur les plus faibles, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. Enfin, ça ne va pas donner de mesures attendues. Ensuite, il reste quand même d'autres mesures qui est toujours ce qu'attendent en fait les marchés financiers et Bruxelles, c'est être capable de se lancer dans ces réformes, les réformes de l'État pour pouvoir être arrivé à taper dans les dépenses.
Pour le moment, il n'y a rien qui se dessine là-dessus.
Franck, sur les impôts, pour reprendre ce que dit Camille Landais, alors que ces propositions d'augmentation d'impôts, ça part un peu dans tous les sens. D'un côté, il dit je suis pas contre une contribution sur la rente des énergéticiens, il y en a déjà une autre. De l'autre, il nous dit quand même
plus
de 300 millions. De l'autre, il dit il faut quand même faire contribuer les retraités actuels. Donc ça tire un peu dans tous les sens, cette histoire.
Non, ça tire dans tous les sens, Guillaume, ou alors il va finalement chercher ce qui n'a pas été vu, revu et rebattu jusqu'à présent, là où il voit des sources de gains fiscal potentiel. Je pense qu'il y a aussi une autre direction dans laquelle Camille Landais n'est pas, c'est quand même un certain nombre de niches fiscales, comme vous l'évoquiez tout à l'heure pour ce qui était les tax cuts aux États-Unis sur lesquels il faut peut-être revenir. On a le débat sur les impôts de production, où effectivement 4 milliards plus 4 milliards, ça fait 8 milliards sur 2 ans. Était-il nécessaire de rester dans cette trajectoire-là, compte tenu...
Attendez, parce que là, si le gouvernement revenait sur la CVAE, alors là, ça serait un bras de fer total avec les organisations patronales.
Oui, mais D'un autre côté, si le gouvernement choisit d'augmenter
on ne peut pas dire qu'il faut booster la croissance à tout prix pour réduire le déficit et revenir sur ces sujets-là, mais c'est pas possible.
Si la situation l'exige, c'est ce qu'on appelle l'économie de guerre parfois, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas dire on a un déficit budgétaire qui grimpe en flèche et ne pas vouloir d'action structurelle, comme disait madame. Donc, les pistes que pose Camille Landais, alors certaines, à mon avis, ne sont pas génératrices de beaucoup de gains, c'est-à-dire ce qu'il dit sur l'apprentissage, ce qu'il dit sur le CIE, le crédit impôt recherche.
Oui, crédit impôt recherche aussi.
Voilà, il avance un certain nombre de pistes, mais on est quand même sur l'épaisseur du trait, me semble-t-il.
Oui.
Ce que vous disiez sur la rente, à un moment donné, le fait que la flat tax limite à 30% l'imposition sur les revenus financiers va à un moment donné fatalement revenir dans le débat, puisque le décalage...
Oui, mais là, il donne un os à ronger à l'aile gauche de sa majorité. Enfin, vous comprenez la manœuvre aujourd'hui.
Mais est-ce que ça n'est qu'un os à ronger, ou un véritable débat qui est de se dire que depuis longtemps, dans ce pays, le travail est beaucoup plus taxé que le capital, et qu'à un moment donné, l'économie de la rente devra peut-être plus contribuer au budget de la nation que ce qu'elle ne contribue aujourd'hui.
Sébastien Lé.
Il y a une mission qui a été donnée à M. Cazeneuve aussi, hein, sur les rentes. On peut essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'il entend par rente. Moi, je pense que c'est vraiment le sujet des niches fiscales qui va revenir sur différents domaines, dans le logement, dans l'énergie. C'est là où ils vont tenter de trouver des économies. Comme ce qui a commencé à être fait, par exemple, avec ma prime Rénov. Hein,
oui.
Ils ont quand même trouvé les 600 millions d'euros assez rapidement. Et donc, c'est sur cet élément-là qu'on va jouer.
Mais de la même manière que sur les super profits, Gabriel Attal a dit qu'il n'avait pas de dogme et qu'il était ouvert à toute discussion.
Oui, alors, il a dit qu'il était ouvert à toute discussion, mais on ne voit pas quelle direction prend la discussion. Pour en revenir, en tout cas, sur les premières annonces qui ont été faites pour ma prime Rénov, je trouve que ça envoie un message quand même assez désagréable sur la volonté...
Sur la transition écologique.
C'est comme le leasing social qu'on abandonne
dans
la campagne.
Mais c'est comme le leasing social pour les voitures.
Oui, non, mais de toute façon, sur la transition écologique, on était en train de couper tous les investissements d'avenir.
Et sachant que c'est quand même un impératif pour l'État, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs? Alors, quand on dit taxe sur les super profits, c'est un mot un petit peu valise. À un moment donné, regardons secteur par secteur. Première source d'interrogation, on a une taxe sur les énergéticiens qui devait rapporter 12 milliards. Elle ne rapporte que 300 millions au bout du compte. Donc là, il y a quand même une question à se poser sur le rapport de ce prélèvement au regard des profits qui ont été réalisés.
Oui, et en même temps, c'est un sujet... structurel, parce que par rapport à la crise énergétique, Stéphanie.
Oui, ce qui était nouveau sur le budget 2024, c'était justement la ligne directrice qui avait été donnée par le gouvernement, où en fait on finance la transition écologique, donc on va taxer tout ce qui ressemble à des niches brunes.
Oui.
Et donc ça, moi je trouve que c'était une avancée par rapport à ce qui avait été fait auparavant, c'est que le contribuable savait où le guide et où on allait bon an mal an avec cette politique fiscale. Alors après, 3 mois après, revenir là-dessus et en essayant de raboter à droite à gauche, ça enlève toute crédibilité.
Oui, mais en même temps, revenir là-dessus au moment où le CAC 40 atteint des records historiques.
Alors, et pour juste me permettre de vous répondre sur les niches brunes, quand à un moment donné, il y a une crise agricole qui démarre dans ce pays et que le GNR, le gazole non routier, devient un sujet de focalisation...
Ouais.
Est-ce que le gouvernement a d'autres choix que sur la machine arrière sur cet avantage fiscal particulier?
Oui, mais ce n'était pas la mesure phare du budget 2024.
Non, alors,
je parle la ligne de directrice qui était importante.
Bah alors, en tout cas, une autre piste qui est à l'étude de la part du gouvernement pour justement récupérer un peu d'argent, c'est de mettre la main sur une partie du trésor de guerre de l'Agirc-Arrco. Catherine Vautrin, apparemment, d'après les informations de presse, aurait relancé l'idée en coulisses, Guillaume.
Oui, parce qu'on est toujours dans l'idée que la réforme des retraites a permis au régime de retraite complémentaire de faire des excédents en plus, et donc l'État pourrait piocher dedans. Écoutez ce que disait ce matin le patron du régime Agirc-Arrco qui était sur BFM Business. Il n'y a pas de magot, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a rien. Tout ça, écoutez.
D'abord, ces cotisations, elles appartiennent aux salariés du privé. Ce régime de retraite, il appartient aux salariés du privé. Et la caractéristique de l'Agirc-Arrco, c'est que quand on travaille plus longtemps, on a une retraite plus élevée. Nous sommes, comme on dit, un régime contributif. Donc, c'est... cotisation, cet excédent relatif, ce rendement relatif, alors c'est pas un excédent, c'est un rendement relatif, il est utile pour garantir le paiement des retraites de tous les salariés du privé qui travailleront un peu plus longtemps demain, mais qui aussi continueront à vivre un petit peu plus longtemps. Donc, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de magot, ce sont des recettes, ce sont des réserves qui sont utiles aujourd'hui et demain.
Voilà, rappel, estimation du gouvernement, tout ça créerait des excédents supplémentaires pour l'Agirc-Arrco, 1,6 milliard d'euros 2020. 3 milliards en 2030. Merci la réforme des retraites.
Voilà, c'est ça, parce que en effet, la réforme des retraites a eu un effet effet positif mécanique avec le passage à 64 ans sur les comptes de l'Agirc-Arrco. Donc la discussion, elle va se faire sur le milliard et demi.
Sur les économies à venir.
Voilà, qui ont été apportées et qui sont un bonus. Franck.
C'est assez hallucinant comme débat parce qu'on a l'impression que le gouvernement veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire la réforme des retraites, les économies.
Ils disent générées, c'est grâce à nous. Ils disent c'est grâce à nous.
Voilà. Générées par l'assurance retraite. Et en plus, aller sur les retraites complémentaires en disant mais finalement, on veut aussi récupérer le gain. Moi, je comprends la colère qui me semble assez légitime. Enfin, en tout cas, l'émoi qui me semble assez légitime du directeur général de la GIRC. On a un peu la même démarche, c'est assez étonnant, il y a un parallélisme des formes, parce que dans le débat sur l'assurance chômage, quand vous te regardez, il y a un excédent sur l'assurance chômage aussi, qui est de l'ordre de 2,5 milliards, après première ponction de l'État, puisque l'État s'est servi d'1,5 milliard sur l'assurance chômage. Et finalement, dans cette chasse aux milliards que vous décriviez tout à l'heure, Guillaume, on a l'impression que politiquement, le gouvernement est quand même en train de prendre des risques en allant chercher des excédents qui ont été constitué par des caisses autonomes en disant finalement, d'une manière très régalienne, je viens ponctionner ces sommes qui appartiennent à d'autres.
Alors, prendre des risques, pourquoi? En mettant à mal le paritarisme et en engageant un bras de fer avec les partenaires sociaux.
En mettant à mal le paritarisme, après les déclarations de Bruno Le Maire, je vous le rappelle, il y a quelques semaines, disant finalement, il serait bon que sur l'assurance chômage, l'État reprenne la main, qui n'est pas uniquement le final cut comme c'est le cas aujourd'hui, mais on sent qu'il y a une volonté quand même de mettre à mal le paritarisme, c'est-à-dire ce qui date de 1945.
L'idée, c'est mettre la main sur les réserves quand même, qui sont estimées à 78-79 milliards d'euros.
Stéphanie
Macron, en 2017, réforme des retraites, il voulait faire effectivement qu'un seul système pour récupérer ces réserves qui étaient à la Agirc-Arrco. Donc, il est toujours il focalise sur cette manne en se disant que c'est une option très facile pour essayer d'éponger quelques
Oui, et il ne comprend pas, en fait, le modèle français traditionnel. Il y a une séparation entre l'impôt et puis de l'autre côté des caisses autonomes et des systèmes de cotisation. D'ailleurs, à mon avis, ça va au-delà. Ce n'est pas uniquement pour récupérer ses réserves. Je pense que philosophiquement, la majorité est opposée au paritarisme.
C'est bien le problème.
Ils sont un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Pour récupérer quelques milliards, finalement, ils en arrivent à vouloir démolir le paritarisme. Alors, l'idée, c'est un peu d'essayer de se projeter. Qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je pense que chaque année, on va rentrer dans ce débat-là. Et à mon avis, il faut voir que la majorité, après cette réforme qui a été difficile, impopulaire, ils se sentent comme des grands brûlés. Il y a des problèmes de finances publiques. Et donc, ils ont la tentation de dire, de toute façon, puisqu'elle a été dure, cette réforme, puisqu'on a souffert, qu'on y a laissé des plumes politiquement, allons-y et essayons de taper dedans. Donc je pense qu'ils iront au clash. Non,
on sent qu'on est au bout de l'histoire, on est au bout du truc là.
Ouais. Ça va pas tenir comme ça chaque année.
Non, mais il disparaît purement.
Mais finalement, le paritarisme est menacé parce que la manière d'aller au clash, comme vous le dites, c'est par exemple sur l'assurance chômage, de faire des lettres de cadrage à espace de plus en plus restreint et finalement de mettre les organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou de salariés, dans une sorte de corner.
C'est aussi un message compliqué envoyé au grand public parce que pour ceux qui cotisent sur le secteur privé, enfin, ils vont aussi avoir l'impression d'être un peu dépossédés parce que ces excédents-là, ils sont censés financer des investissements d'avenir, ils sont censés revaloriser les pensions des plus modestes.
Et surtout, en fait, en majorité, ils financent la dette de l'État. Hein,
voilà.
En plus.
Directement sur les EAT.
Ouais. Allez, voilà pour le magot de la Agirc-Arrco. Enfin, il n'y a pas de magot, disait ce matin son directeur général sur BFM Business. 19h32.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, Stéphanie Villers, Franck Boisiz et Sébastien Lesson, nos experts ce soir. Alors on va aussi parler solutions pour trouver des économies si on s'attaquait une bonne fois pour toutes au chantier de la complexité administrative. Sébastien Lesson, c'est un rapport que vous venez de publier qui s'intitule La simplification administrative, sortir de l'enfer bureaucratique français, avec ce chiffre quand même édifiant. L'inflation normative, c'est plus 65% en 20 ans.
Ouais, c'est énorme, il y a certains codes, par exemple le code de la santé publique, doublé de volume tous les 15 ans, 400 articles à peu près en plus chaque année. Les CERFA, vous savez combien il y a de CERFA en France? On en a parlé récemment.
Oui, allez-y.
1800 stricto sensu, mais parfois vous avez l'annexe, etc. Donc, vous faites tous les documents, il y en a à peu près 4000.
Vous annoncez la fin des SERFA pour je ne sais pas quand.
2030.
Oui, oui.
Ah, on verra s'ils arrivent à le faire, tant mieux. Il y a des pistes pour y arriver dans le rapport sur la dématérialisation, l'intelligence artificielle, voilà, la simplification de certaines
procédures. Et vous dites le poids de la complexité administrative, c'est 3-4 points de PIB. Vous dites
c'est ça.
Ça fait 70
environ
milliards.
Environ 70 milliards d'euros ouais, par an.
Après, c'est le complexité, coût pour la collectivité. C'est une notion toute relative, la complexité.
Bien sûr, mais il y a quand même des études très sérieuses sur le sujet. Alors, ça inclut bien nous, les citoyens, les entreprises, bien sûr, mais aussi l'administration elle-même, qui perd en efficacité dans ses propres procédures. Donc, déjà, on parlait de la dépense publique, il y a 10-12 milliards d'euros, rien que de réorganisation administrative à aller chercher chaque année.
Mais c'est quand même une des grandes promesses de Gabriel Attal, qui dit qu'il va prendre en compte les besoins des entreprises, les relations avec l'administration, la dématérialisation, justement, la simplification fiscale, le test PME, exactement, pour que systématiquement les mesures concernant les PME soient testées avant d'être votées. Vous y croyez, Franck Boisis ?
Je crois éventuellement dans la démarche politique consistant à je m'interroge sur le gain in fine. Sachant que
le gain économique, il est à peu près évident. C'est ça ce qui vous interpelle. C'est
oui,
ça
c'est-à-dire
qu'on va vraiment gagner.
Au bout de l'histoire, quelle est l'économie budgétaire qui est réalisée quoi.
Bah alors regardons nos voisins, parce que c'est ce que je fais dans ce rapport, sans aller jusqu'au Canada, les États-Unis ou l'Argentine, mais juste Pays-Bas, Allemagne, c'est des pays qui ont réussi à mettre en place des politiques pérennes de simplification. Ils regardent ça chaque année et ils ont réussi à diminuer le stock normatif d'environ 10%, à avoir de réelles économies. Donc il y a des résultats tangibles qui ont été obtenus dans pays. C'est pas le moyen de trouver 70 milliards d'euros par an, hein, parce qu'on pourrait pas tout supprimer comme l'a dit le sénateur Husson.
Non mais 10%, mais y a quand même 10% voilà. Si vous...
Oui, et puis de la tranquillité aussi pour les citoyens, parce que l'origine de ce rapport, c'est aussi, vous l'avez autour de vous, des gens qui n'en peuvent plus. Oui. Nombre de fois où l'administration leur demande les mêmes informations.
Alors ça c'est le fameux « dites-nous qu'une fois ».
Exactement.
Qui est aussi
exactement.
Promis par le gouvernement
et
actuel.
Là aussi, ça n'a jamais été vraiment fait. Donc, ouais. J'ai une proposition un peu plus rigoureuse sur le sujet. Et en fait, il y a un coût. On parlait de 3-4% du PIB, mais je pense qu'il y a un coût d'opportunité énorme en France. Il y a encore un certain nombre de gens qui ne vont pas entreprendre, qui ne vont pas ouvrir de commerce, qui ne se lancent pas. Même dans certaines démarches, parfois, quand ils ont droit à des aides sociales, aussi, au niveau du social, à cause de la complexité
administrative. Et puis aussi, Stéphanie, pour les professions et les entreprises existantes, c'est aussi un sujet de passer à l'échelle. Parce qu'ils sont complètement asphyxiés. Enfin, je parle des petites entreprises.
Oui, TPE, ouais.
Oui, c'est un véritable frein. Alors après, est-ce que l'intelligence artificielle du côté des administrations, du côté des entreprises, va pouvoir faciliter en fait l'échange d'informations, hein, parce qu'en fait, ce sont deux intelligences qui vont se parler. Donc après, il y aura moins besoin d'investir dans ces tâches administratives. Après, du côté de l'administration, est-ce que c'est pas des emplois en moins, parce que ces gens-là on a bien entendu parler du poids de l'administration en France, notamment dans le secteur de la santé, si on compare par rapport à l'Allemagne. Vous savez, il y en a...
Les coûts de fonctionnement.
On précise que les coûts de fonctionnement de l'hôpital, c'est 30% dirigés vers la partie administrative.
Alors qu'on est plutôt à 20%.
Alors que c'est 10 points de moins en Allemagne.
Donc c'est aussi peut-être une promesse de rehausser la qualité du service public en redirigeant les dépenses vers la partie opérationnelle.
Oui, mais c'est ces salariés, ces fonctionnaires qui sont affiliés, qui sont dédiés aux tâches administratives, en fait, il va falloir leur trouver...
Ils feront autre chose.
Là aussi, c'est peut-être aussi ce qui freine, en fait.
L'intelligence artificielle, je suis plutôt optimiste, parce que pour l'instant, ce qui a marché dans la simplification, c'est la dématérialisation. Et finalement, l'intelligence artificielle, c'est le niveau 2 de la dématérialisation. Ce qui est plus dur, c'est d'arriver à faire, par exemple, ce qui est une des grandes recommandations de mon rapport, qui est, on parlait tout à l'heure du droit bavard, qui est vraiment d'arriver à s'asseoir, comme on l'a fait avec la commission Badinter, et de dire, voilà, le droit ne peut pas se mêler de tout. Il faut définir quelques principes généraux, protéger les gens et après faire confiance aux acteurs de terrain. Ça, c'est une révolution plus culturelle, plus politique qui est difficile parce qu'elle demande presque aux politiques, finalement, philosophiquement, de se dessaisir d'une partie de son pouvoir.
Il y a une douzaine de mesures dans votre rapport. Moi, je reviens, on en parlait déjà tout à l'heure, c'est le principe de précaution. Vous dites qu'il faut revisiter le principe de précaution. Vous dites véritablement frein à l'activité, stricto sensu. Voilà.
Logement, innovation, start-up,
sujet
à chaque fois, on nous oppose.
Sujet hyper clivant, Sébastien.
Bien sûr, c'est un rapport.
Qu'est-ce qu'on fait avec le principe de précaution?
De rapport. Moi, je pense que c'est de le sortir du bloc de constitutionnalité. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il arrivait à essaimer de partout dans le droit, c'est que, rappelez-vous, à l'époque, c'était Michel Barnier qui avait obtenu que ça soit inscrit dans le bloc de constitutionnalité. Si on met tout dans le bloc de constitutionnalité et qu'on donne à peu près à toutes les notions, tous les sujets, une valeur constitutionnelle, on s'en sort plus sur le terrain.
Hein.
Oui, mais alors, Franck Boissize, je ne vous sens pas convaincu.
Bien sûr,
il me manquait un morceau dans ce que vous dites. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de votre rapport ou pas, mais ce qui me semble être une cause de déperdition d'énergie et de deniers publics, c'est ce qu'on appelle trivialement le millefeuille administratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Non, mais quand je parle de millefeuille administratif, je parle de l'empilement.
Oui, des couches et des strates et des doubles.
Entre État, les différentes couches de collectivités locales.
Alors, je ne me suis pas posé la question de l'organisation territoriale, parce que quand on fait un rapport comme ça, la simplification administrative, on pourrait parler de tout. Je pourrais parler de l'Europe, etc. Il a fallu que je me cantonne stricto sensu au processus administratif.
Ça sera la tome 2, Sébastien.
Mais il y a quand même, vous avez raison, même dans l'administration, différentes couches. Le sujet des agences, parfois, qui font doublon à l'administration administrante. Donc oui, la question du millefeuille administratif et, in fine, territorial.
Non, mais il y a le millefeuille administratif et le millefeuille de normes qui s'empilent les unes sur les autres, qui sont parfois contradictoires. Vous avez vu, sur le sujet des « et », concernant les agriculteurs.
Les normes sont souvent des transpositions, Audrey. C'est-à-dire qu'à un moment donné.
Alors, ça aussi, on en parle. Il y a une surtransposition des directives européennes.
L'enfer est pas avec
bonnes intentions. Il faut lutter contre ce phénomène-là aussi.
Franck. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même. N'oublions pas ce nombre d'acquis qui ont été réalisés. Je pense que, par exemple, une grande réforme comme le prélèvement à la source.
Oui, ça a marché. D'accord, il s'agit d'aller chercher de l'impôt.
Et c'est source de simplification. Sur la collecte de l'impôt, quoi.
Et c'est source de simplification. Pour le
Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne parce que justement il y avait trop de réglementations, trop de directives, trop de normes, et bien s'est retrouvé en fait encore plus pénalisé parce que en sortant du marché unique, les Anglais sont obligés de remettre en fait des droits de douane avec ils sont repartis en fait dans une administration qui était justement la raison pour laquelle ils sont partis. Donc moi ça me fait rire quand même que c'est l'arroseur arrosé pour le coup.
Si dans le principe de précaution et l'inflation de normes, on est aussi, le propos est un peu plus sociétal, mais une société qui accepte de moins en moins le risque. Et on le voit quand il y a une crise sanitaire, quand il y a un pont qui se casse la figure, on dit pourquoi ça s'est produit ? Puisque nous tolérons beaucoup moins le risque. Et on demande, à ce moment-là, une protection de la part de l'État régalien.
Nous sommes aussi tous collectivement responsables de cette inflation normative. Il y a un ras-le-bol de l'inflation normative, mais les Français doivent prendre conscience que c'est eux aussi qui ont eu trop de pouvoir aux politiques, qui ont été trop demandeurs du politique.
Oui, je ne sais pas si on peut vraiment remettre la faute sur le citoyen. Comment ?
Pardon, si regardez à chaque problème. Non, allez-y.
Moi, j'ai observé que les politiques, en fait, face à un problème, la solution se trouve à travers de nouvelles normes. Hein.
Exactement. Un problème, une norme.
Ajoutant de la norme à la norme. Donc, par rapport à un problème, par exemple, à un pont qui s'écroule, donc il faut faire de nouvelles normes avec des. Considérant que c'est les normes qui vont pouvoir les protéger.
Bien, voilà pour ce rapport sur la complexité administrative que vous publiez aujourd'hui avec les contribuables associés. Non, c'est sorti ce week-end, Sébastien. Voilà. Simplification administrative, sortir de l'enfer bureaucratique français. Vous voulez dire un petit mot de cet autre rapport qui fait beaucoup causer depuis ce matin, rapport à charge, disons-le clairement, de deux députés sur l'enseignement privé sous contrat en France.
Et oui, rapport qui dénonce un financement public peu transparent, mais surtout mal contrôlé. On écoute tout de suite ce que disait ce matin le co-auteur du rapport, le député Renaissance Christopher Weisberg.
Le premier moyen d'enrayer la dynamique du privé, c'est que le public soit excellent, et notamment parfois en s'inspirant des techniques du privé, avec quelque chose qui est plus un encadrement qui est plus souple. Ça, j'y crois aussi. Mais il y a aussi des dérives. Par exemple, et c'est une des préconisations du rapport, il y a des établissements privés qui se délaissent des élèves qui considèrent à problème, alors que leur mission, c'est quand même d'aller jusqu'au bout de leur scolarité. Donc ça, on demande à ce que le recteur, par exemple, valide ou pas un élève qui serait obligé de quitter l'école privée.
Oui, alors sur ce sujet-là, il a raison, puisque 50% des élèves dans le privé sont issus de familles plutôt favorisées, alors que dans le public, c'est uniquement 33%. Mais quand même, de toute façon, les deux systèmes publics et privés souffrent de manque de moyens financiers et de manque d'investissement. Sébastien Lay.
Oui, mais je crois qu'il y a des vases communicants entre les deux. Le problème, c'est que c'est la détérioration de l'école publique qui fait que, malheureusement, les gens des familles les plus aisées basculent dans le privé et que reste du coup une moyenne dans le public en termes de catégorie socio-professionnelle qui est plus basse. Moi, je suis attaché à l'école publique, j'ai fait tout mon parcours dans l'école publique et il me semble qu'en une trentaine d'années, la situation s'est détériorée. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui de ma génération qui ont des enfants me disent, pas moi-même, mais me disent, nos enfants, ils peuvent pas rester dans l'école publique, le niveau est tellement catastrophique.
Il faut regarder de toute façon les privé, classements, PISA.
Alors que moi, dans ma famille, philosophiquement, on serait jamais allé dans le privé, quoi.
Ce qui me gêne un peu avec ce rapport, c'est qu'ils le disent, vraiment, le sujet, c'est que personne ne sait combien l'école privée reçoit de fonds publics, mais il n'y a pas de réponse à cette question. Puis on fantasme de possibles dérapages, l'idée que
les contreparties ne sont pas forcément à la hauteur des subventions, mais de quelles subventions parle-t-on? De quel possible dérapage parle-t-on?
Enfin, on a quand même deux chiffres qui sont des balises, Guillaume. C'est-à-dire 7500 établissements concernés et 10 milliards, une enveloppe près de 10 milliards d'euros.
Oui, mais même ce chiffrage-là, ce n'est pas, pas précis, Franck.
Il n'est pas d'une précision absolue. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que finalement, face à ces 10 milliards d'euros, qu'est-ce que l'État a en contrepartie? Je veux dire par là, est-ce que les établissements scolaires, je crois que ce n'est pas le cas, sont soumis à des sortes de contrats d'objectifs et de moyens, comme ça se fait avec l'audiovisuel, par exemple, public, hein, où on dit, bah, écoutez, vous êtes financé, puisque l'école privée est financée, puisque les enseignants, si on rentre dans le cœur du système, les enseignants qui officient au sein de l'école privée sont rémunérés par l'État. Et en fait, la structure privée a à sa charge les coûts immobiliers et les activités annexes. Donc, à partir du moment où c'est un service public, l'éducation, qu'elle est subventionnée dans le secteur privé, l'État est en droit de dire, bah, je mets un cahier des charges, et est-ce que vous respectez bien ce cahier des charges? Et là, on est au cœur du problème, le fameux contrat, puisqu'on est dans un enseignement sous contrat, le contrôle du respect et de l'exécution du contrat est insuffisant. Et c'est ça que dénoncent finalement les deux.
Enfin, et est insuffisant, pardon, mais quand on regarde les taux de réussite entre le public et le privé, que ce soit sur le bac ou sur le brevet, le privé reste devant. Stéphanie.
Oui, bah, oui, c'est en fait le
et pour cause.
Oui, alors, mais d'accord.
Ah oui, mais là, le contrat n'est pas rompu. On ne peut pas reprocher à l'établissement privé. Enfin, je prends pas parti pour l'établissement privé, mais si l'établissement privé a des résultats au bac supérieur aux établissements publics, on ne peut pas reprocher au privé de ne pas.
Si, on peut lui reprocher parce qu'il a ses résultats supérieurs en pratiquant une sorte de ségrégation sociale.
Le sujet de diversité, c'est une chose.
Si ces résultats sont à ce niveau-là et supérieurs au secteur public, c'est bien parce que le profil sociologique des élèves qui sont dans le secteur privé.
Oui, mais pardon, mais ça,
c'est
attendez,
pas un problème financier.
Parce que ça, c'est la promesse républicaine que l'école publique ne tient plus, de justement accompagner les élèves en difficulté et un peu plus éloignés.
Le vrai sujet, c'est l'école publique, in fine. Oui. C'est pas tant
ce que dit le député,
dans l'école privée. Après, il y a peut-être un autre sujet sur le bon usage des deniers publics, parce que là, ce mécanisme de subvention, on le retrouve dans de nombreux secteurs. Il y a peut-être un problème qui est celui de la difficulté à auditer finalement la dépense de l'État. Le contrôle, c'est ce que disait d'ailleurs le sénateur Husson, c'est ce que dit ce rapport. Mais il y a deux sujets. Mais fondamentalement, ça doit nous interpeller aussi sur la qualité de l'école publique.
Oui, absolument. Et puis, puisque vous parliez tout à l'heure des rémunérations des enseignants, je vous signale que le gros sujet, il est là. Et d'ailleurs, autant dans le privé que dans le public. En Allemagne, les enseignants sont payés deux fois plus. En Espagne, 30% de plus. Enfin, on a quand même un vrai sujet de valorisation de la profession.
Oui, alors, vu le poids du budget d'éducation dans le budget global, enfin, c'est ce qui pèse le plus lourd chez nous, hein, en fait. Donc, les marges de manœuvre pour augmenter les professeurs avec la masse que ça représente en nombre, hein, où il faudrait diminuer le nombre d'enseignants. Non, c'est juste une question de marge budgétaire. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.
Je suis d'accord avec vous, c'est 900 000 fonctionnaires donc, à rémunérer. Donc, dès qu'on va augmenter un petit peu, c'est beaucoup d'argent.
Oui, ça fait effectivement vraiment un immense trou dans la dépense publique. Enfin,
trois minutes avant vos avis pour vous faire écouter Xavier Bertrand qui a fait un petit coup de gueule ce matin. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de départements en France qui sont touchés par de graves inondations, le Pas-de-Calais notamment. Et alors, Xavier Bertrand l'a dit, depuis novembre dernier, il y a 200 communes de mon département qui ont été touchées. Et il y a plusieurs assureurs qui n'ont toujours pas fait de proposition d'indemnisation. Donc il dit, maintenant je dénonce tout simplement les assureurs en question. Écoutez Xavier Bertrand ce matin.
Puis que je les ai cités, là les sinistrés, les collectifs des sinistrés, à Blandec, à Arc, tout ça, commencent à avoir des appels. Non, mais vous imaginez, il faut que je vienne sur un plateau, il faut que je vienne devant la presse pour dire, vous ne faites pas votre boulot sérieusement pour que derrière ça bouge. Et puis si je peux me permettre, c'est mon boulot, c'est le rôle de l'État. Alors je ne vais pas me poser de questions existentielles, moi je le fais.
Non, mais c'est clair, parce que 5 mois après les intempéries, la grande majorité des assurés n'ont rien touché. Et depuis qu'il en parle, beaucoup de contrats qui étaient dans l'impasse, finalement, se sont débloqués. Franck Boisise.
Alors, ce qui est amusant dans l'histoire, il faut peut-être ne pas l'oublier, c'est que Xavier Bertrand, dans sa première vie, avant d'être
il a été agent général d'assurance.
Donc, il sait de quoi il parle. Cela étant, ça
montre. Non, mais vous avez vu, il a vraiment balancé les noms des assurés.
Voilà, ça montre une chose, c'est que le name and shame, ça fonctionne. Effectivement, j'étais tenté de ramener ça. Avant cette émission, j'ai regardé quelques résultats des grands groupes d'assurance.
Ils se portent pas trop mal.
AXA, 7,6 milliards, plus 27%.
Oui, mais le risque assurantiel est de plus en plus élevé. Vous voyez ce rapport qui est sorti aujourd'hui comment préserver l'assurabilité du territoire
le
français.
Enfin, l'assurantiel est de plus en plus élevé, vous avez raison. Oui. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que le secteur de l'assurance, qu'il soit mutualiste ou privé, n'est pas en danger face à l'augmentation, pour le moment,
de la sinistralité.
Stéphanie. Enfin,
couvrir les catastrophes naturelles, ça va être de plus en plus compliqué pour les assureurs. Donc, le risque, c'est que ces assureurs reviennent vers l'État pour dire qu'il va falloir être... que ce soit un choc, qu'il soit enfin, un risque, qu'il soit protégé.
Mais il sera mutualisé comme il l'a été jusqu'à présent.
C'est leur métier. Hein.
Sébastien qui applaudissait en écoutant Xavier Bertrand, je peux le dire. Non, ça vous a plu ce que dit Xavier Bertrand.
Oui, il a 100% raison. Je dis pas ça uniquement parce que c'est un ami. Hein. Bon, bah, j'étais heureux de le voir. Non, mais normalement, la gestion des risques dans ce système-là, c'est l'assurance, aussi les réassureurs. Il faut éviter quand même de se retrouver dans des situations comme ce qu'on a par exemple aux États-Unis ou en Floride. Vous avez des assureurs qui viennent du fait, par exemple, du risque climatique, de la possible montée des eaux, qui n'assurent plus, par exemple, certaines maisons. Donc il vaut mieux prendre le problème à bras-le-corps dès maintenant.
Mais on commence à avoir ce problème.
Ça c'est autre chose, parce que quand une compagnie d'assurance vous dit je ne vous assurerai pas, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Là, quand on paye tous les mois son contrat d'assurance, c'est un pacte de confiance qui est quand même trahi.
Mais cela étant, quand ça traîne, finalement, c'est peut-être aussi une forme de stratégie de la part des assureurs. C'est-à-dire que quand on sort l'argent, si vous me passez l'expression un peu triviale, plus lentement, ben, ça se retrouve dans le bilan à la fin de l'année.
Mais je suis d'accord avec vous, c'est l'illustration que le Neyman Chain, ça parle, puisque Xavier Bertrand a balancé des noms et il a quand même reçu des coups de fil des assureurs en question petit à petit. Allez, 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time sur BFM Business. Comme tous les soirs, vos humeurs du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette... émission. Sébastien, est-ce que vous voulez commencer à les 30
ans? Oui, aujourd'hui, les 50 ans du décès de Georges Pompidou, c'était une époque d'ambition économique, de renouveau industriel. On avait gagné 20% en qualité de vie, en niveau de PIB par habitant. Ça paraît exceptionnel. C'est peut-être la dernière année où on a eu des résultats économiques exceptionnels en France.
Et donc, il faut méditer le message
un peu de nostalgie.
Méditer le message de Georges Pompidou.
Exactement.
Que ça, voilà, le coup de cœur ce soir.
Le message est passé.
Sébastien sur BFM Business.
Stéphanie Villers.
On parle de la nécessité d'augmenter le taux de participation en France. Et alors on a augmenté la participation des jeunes grâce à l'apprentissage.
Ouais.
On a augmenté la participation au marché du travail des seniors grâce à la réforme des retraites. Et on oublie en fait que la participation des femmes en France est plus faible que dans les autres pays européens. Il faudrait peut-être s'attarder à ce sujet-là. Et on voit que en fait le taux de participation des femmes commence à baisser à partir du premier rang. Enfant. Donc la parentalité pose problème. Ouais. Il faudrait quand même trouver.
Ben, il faut écrire une tribune là-dessus.
Oui, c'est le prochain sujet après l'emploi des seniors, l'emploi des femmes, effectivement, qui est un vrai sujet. Franck veut nous parler de la SNCF, si j'ai bien compris ce soir. 30 secondes, Franck.
Plus globalement, du train, j'ai l'impression qu'on est toujours le low cost de quelqu'un, c'est-à-dire que la SNCF, qui est allée sur les terres espagnoles avec sa filiale low cost Ouigo, rencontre quelques difficultés, puisque le gouvernement espagnol est très mécontent de l'arrivée finalement de Ouigo en Espagne, en disant finalement, cette entreprise qu'on a laissé venir chez nous fait concurrence à notre propre chemin de fer. Et donc, ils envisagent de les dénoncer carrément et de les traîner devant l'autorité de la concurrence locale. Donc, ce qui fait que finalement, c'était ma conclusion, à vouloir casser les prix, on est toujours le low cost de quelqu'un.
Vous vous rendez compte, on a trouvé quelqu'un qui se plaint des tarifs trop bas à la SNCF sur les Google. Ça fait quand même le faire, là, pour le coup. Là, voilà.
Bon, et alors que nous, en face, on accueille des trains italiens.
On accueille des trains italiens, mais bon, qui pour le moment ont pris une part de marché, Audrey, assez modeste.
Ah bah oui, mais on n'en est qu'au début.
C'est moi qu'on puisse dire. Bah voilà pour vos coups de cœur et vos coups de gueule ce soir, l'Extra Time. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de BFM Business ce soir. Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique chez PwC France. Sébastien Lay, entrepreneur économiste à la Fondation Cocorde. Et puis Franck Boisy, journaliste au quotidien Libération, journaliste économique. Merci beaucoup à tous les trois.
Bonsoir.
À très vite, avec grand plaisir, pour d'autres aventures. 19h55, c'est fini, nous, pour aujourd'hui.
Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci dit, pas de panique, puisque le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Bien sûr qu'on se retrouve demain soir, 18h-20h, pour de nouvelles aventures. Tech & Co, François Sorel, Frédéric Simotel et toute l'équipe. Dans un instant, très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.